on recommence. On va un petit peu inverser une chose, mais ça ne bouscule pas forcément les horaires. C'est parce que Stéphane Marciro, donc, qui doit nous présenter un jeu sur la philosophie, va introduire ce jeu et sa façon de, la façon dont il l'a conçu, parce qu'ensuite il a un cours qui l'attend. Bah évidemment, quand on est prof, on donne des cours encore, hein. ça arrive. Donc ce que je vous propose, c'est que je lui donne la parole tout de suite, et puis après on donnera la parole à Raphaël pour qu'il nous parle d'Urbex, je ne sais pas comment on dit. Enfin, il nous précise. C'est bien dit, merci. Donc Stéphane, si tu veux te présenter, parler dans le micro et présenter ton jeu.
Alors, je peux prendre le micro ou ne pas le prendre comme là, ça n'est pas... Ah, vous êtes enregistré, d'accord. Donc là, il vaut mieux prendre le micro. Je vais prendre n'importe lequel, alors ?
Oui, peu importe.
Celui-ci, ça fonctionnera, alors. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je commence par remercier donc Jackie, Daniel et Céline Nolo pour leur invitation. Et effectivement, je peux témoigner qu'ils encouragent vraiment la créativité, et lorsqu'il y a un projet qui émerge, ils n'hésitent pas à solliciter les créateurs, les inviter au maximum de manifestations possibles. Donc merci beaucoup à tous les deux. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Stéphane Marciro, donc j'habite à côté de Poitiers, à Vouillé-la-Bataille, et j'enseigne la philosophie depuis une vingtaine d'années. Alors je suis aussi, je suis professeur certifié, mais aussi docteur en philosophie de l'Université de Poitiers. Et puis donc j'enseigne depuis 20 ans. Voilà. Et la question se pose, comme pour tout enseignant, de la manière dont on va transmettre des connaissances. Comment aider les élèves à mieux apprendre, à mieux retenir. Donc c'est un cheminement que je vais vous présenter dans quelques instants, un jeu, un outil, qui est vraiment le fruit d'une réflexion sur plusieurs années. Si je devais simplifier, je vous dirais que quand on commence à enseigner et qu'on sort d'université, on a des approches très, très complètes, des philosophes très, très techniques, mais si on veut se mettre à la portée des élèves, il va falloir simplifier. Et je pense qu'au fil des ans, on fait ce travail qui consiste à décanter les choses, à aller à l'essentiel. Et ce qui fait que pour chaque philosophe, par exemple, je vais vous montrer, en quelques lignes, par exemple sur la méthode cartésienne, sur le cogito ergo sum, il faut être capable d'expliquer aux élèves, voilà, très rapidement les grandes lignes. Après, on pourra approfondir, bien sûr. Mais je pense que ce travail, souvent l'expérience permet d'y accéder. Alors voilà pour poser le paysage. Donc la question est de trouver un outil pour stimuler les élèves, pour leur permettre de mieux apprendre, de mieux comprendre. Alors, je vous parlais un peu de l'expérience et du temps, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus insister, par exemple, sur tout ce qui concerne les neurosciences. Donc les neurosciences, c'est-à-dire qu'on étudie le fonctionnement du cerveau, et la pédagogie s'appuie de plus en plus sur ce que l'on sait du cerveau, des choses qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. Alors, il y a quelques années, on savait déjà qu'il y avait plus d'intelligence. Vous savez, la mémoire verbale, la mémoire auditive et la mémoire kinesthésique. Alors j'ai commencé à m'appuyer là-dessus, en me disant que pour que les élèves retiennent bien, il faut trouver un moyen pour qu'ils sollicitent ces trois formes d'intelligence, ces trois formes de mémoire. Et puis vous verrez que par la suite, les neuf formes d'intelligence qu'on évoque habituellement sont sollicitées. Alors j'avance un petit peu sur le diaporama pour vous montrer d'autres choses. Alors dans philosophie, le symbole de la philosophie, voilà, donc là c'est moi. Et juste pour dire que c'est vrai que j'ai eu l'occasion dans ma carrière d'enseigner auprès de séries aussi de séries technologiques. Donc j'ai plus actuellement, depuis quelques années, je n'ai plus de séries technologiques en cours, mais il y a encore 5-6 années, j'avais des élèves de séries technologiques, donc des élèves de public très variés, avec seulement 2 heures par semaine. Voilà. Et j'anime aussi des ateliers de philosophie pour enfants dans le cadre de l'association de Frédéric Lenoir, l'association Sève. Alors, il faut permettre aux élèves de comprendre, de mémoriser les notions philosophiques en vue d'argumenter. Donc comprendre, mémoriser, en vue d'argumenter. Donc c'est les trois axes du travail que je vais vous présenter. Mémoriser. Donc on va voir, alors je vous mettrai les cartes en main dans quelques instants, vous verrez. Et donc je rappelle pour celles et ceux qui seraient arrivés un peu après les premiers échanges, qu'il y a ce soir une présentation du jeu. Donc j'ai tout un ensemble de jeux que je vous mettrai en main, entre 17h et 18h30. Voilà, donc là si vous avez une bonne heure devant vous, vous pourrez vous plonger un petit peu dans l'esprit du jeu que j'ai mis au point. Donc l'idée, c'est de commencer par comprendre. D'accord ? Donc vous allez voir des cartes auteurs, d'accord ? Qui sont des cartes illustrées, donc avec des dessins, qui mettent le philosophe dans un contexte. Un contexte où on va le situer avec des notions classiques. Par exemple, je prends juste un exemple que tout le monde en général connaît un petit peu, c'est Descartes, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Descartes, la méthode. Donc la question se pose pour l'enseignant. Il y a plusieurs grandes notions à faire graviter autour de Descartes. Comment je vais faire pour que l'élève lorsqu'il pense à Descartes, pense à l'ensemble des notions qui concernent Descartes. Alors, je vais vous le montrer. Voilà, là, vous avez l'exemple de la carte de Descartes. Donc là, c'est le portrait. Et là, c'est le verso où vous avez justement, on pourrait dire, Descartes en situation. Vous voyez, Descartes, la méthode est symbolisée ici par une échelle avec quatre barres, une méthode en quatre points pour monter sur le cheval qui représente la domination de la nature. Vous avez ici le repère cartésien qui nous rappelle que Descartes était mathématicien et que dans ce repère, tout peut être calculé. Trajectoires sont identifiées. Vous vous souvenez qu'avec Descartes, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Donc tout le monde possède le bon sens. Différentes époques, hommes, femmes, différents lieux aussi, mais un même soleil, une même raison qui éclaire tous les hommes. Autre point fondamental chez Descartes. Donc là, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Là, on a la méthode. Là, on a, vous avez peut-être deviné, le cogito ergo sum, je pense donc je suis, se voit à travers le miroir. Ici, on a un grand classique, hein, c'est-à-dire que Descartes nous dit, si je ne postule pas l'existence de Dieu, rien ne m'assure que le monde tienne en place. Donc, il faut, donc là, on est en une époque où on a besoin de dire que, on a besoin de cet apport théologique sur lequel il faut que Dieu existe pour que le monde ne s'écroule pas. Donc là, c'est symbolisé par un Dieu qui, comme Atlas, on peut dire, soutient le monde. Donc si je reprends, vous voyez, il y a différentes petites cartes qui vont graviter autour. J'ai une carte, par exemple, l'homme peut devenir comme être et possesseur de la nature. Ça correspond à l'homme sur le cheval. Une deuxième carte. La philosophie est comme un arbre. Donc là, la philosophie est comme un arbre et on aura l'explication. C'est que c'est un arbre qui comprend la médecine, la mécanique, la morale, la physique, la métaphysique, enfin bref. Donc tout va être inclus dans la philosophie. Une autre carte. Alors vous ne voyez pas d'ici, mais pour montrer qu'il y en a sept. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Donc les hommes et les femmes qui se donnent la main. Une carte cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Une carte sur la méthode. On vient d'en parler. Il faut bien un escabeau pour monter sur le cheval. Une autre carte, je n'en ai pas encore parlé, c'est les animaux-machines. Parce que Descartes postule, donc on est au XVIIe siècle, que tout fonctionne sur le mode du mécanisme. Le cheval, là, vous ne voyez peut-être pas très bien avec l'éclairage, mais la chouette, l'animal, l'arbre, lui aussi est mécanique. Et remarquez bien que le pied de Descartes, lui aussi est mécanique. Car notre corps fonctionne comme une machine. Donc vous voyez, avec cette carte, vous venez d'intégrer... Alors, oui, la septième notion, c'était un athée ne peut pas être géomètre, hein, c'est Dieu qui soutient le monde. Vous venez d'intégrer sept notions fondamentales qui gravitent autour de Descartes. Et ça, l'expérience prouve, parce que j'ai testé avec mes élèves, bien sûr, c'est qu'en une heure, un élève de bonne constitution, qui a un minimum envie d'apprendre, eh bien, va retenir six cartes avec les sept notions qui tournent autour. Et au bout d'une heure, on peut tout de suite vérifier, on met les sept auteurs devant lui, on lui donne le paquet avec les notions, et il les remet à 90% au bon endroit. Alors là, pour l'instant, on n'est pas rentré dans l'explication de détails, on ne maîtrise pas de texte philosophique, mais déjà, un univers se construit. Et l'élève, lorsqu'il pense à Descartes, il visualise cette carte, justement, et il va retrouver les grands concepts. Et quand il prendra la philosophie de Descartes par un bout, le reste va se dévider, il va retrouver l'ensemble des autres notions. Donc là, là, c'est une carte notionnelle, voilà, dont je vous en ai parlé des sept. Cette carte notionnelle pour Descartes, cette carte notionnelle pour Freud, cette carte notionnelle pour Marx. Vous découvrirez ça ce soir à 17h. Voilà. Alors, il y a 9 règles du jeu qui ont été élaborées pour ce jeu philosophique. L'idée, c'est que les élèves s'amusent, mais s'amusent en apprenant. Donc, au début, on a un jeu de questions-réponses, d'observation de la carte. Par exemple, sur quoi Descartes est-il monté ? Sur le cheval ? Que représente le cheval ? Bon, la nature. Donc c'est très progressif, d'accord ? Et puis, plus on avance, plus on va avoir des jeux qui vont exiger de l'expertise, de l'habitude, et puis de l'approfondissement. Si vous voulez, le dernier jeu, ça s'appelle la compo de philo, où vous avez une question type bac, et puis vous avez vos cartes, et puis vous essayez de faire trois chemins de réponse avec ce que vous avez sous la main. Donc là, c'est plus compliqué. Mais les premiers jeux se jouent soit seuls, soit à plusieurs. Un autre exemple pour vous donner une idée, oui, on peut jouer au KEMS. C'est le KEMS, quand on était plus jeune, on avait des cartes, puis il fallait faire, fallait avoir les... c'était toutes les dames, par exemple, c'est ça. Et puis on disait KEMS, c'est-à-dire que quand on avait une famille qui était complète. Ben là, la famille qu'on va compléter, c'est par exemple la famille de Descartes. Descartes avec ses 7 cartes, ça en fait 8 en tout, c'était prévu pour. Et lorsque les deux personnes qui jouent ont ramassé toutes les cartes concernant Descartes, eh bien, on dit duo gagnant, enfin bref, et c'est la même logique, même mécanisme que le KEMS. On a aussi d'autres logiques, un peu comme les sept familles. Bref, pour dire que les logiques de jeu ne sont pas très compliquées, mais permettent aux élèves de s'y retrouver et rapidement d'apprendre. Donc, des règles du jeu qui ont été testées en classe, il y a une progression. Des jeux classiques, une question pour un champion. Qui a dit « Je pense donc je suis », Descartes, hop, vous gagnez la carte. Qui a dit « La lutte des classes », hop, Marx, vous gagnez la carte. Et comme ça, il y a un effet de stimulation. Vous voyez, c'est simple comme jeu. Des règles 5 pour faciliter la mise en route des activités. Voilà. Alors juste pour montrer rapidement comment ça se compose. Donc vous avez 12 cartes auteurs, 80 cartes notionnelles, des cartes questions, c'est-à-dire que qui permettent de rentrer dans l'univers de la carte, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui elles-mêmes apportent du contenu. Et puis des cartes programmes. Voilà, par exemple, là, c'est le chapitre La politique. Les élèves du bac ont au moins 5 chapitres à travailler, dont un, La politique. Et dedans, il y a plusieurs notions qui gravitent et qui doivent avoir à aborder. Et donc, dans les jeux les plus experts, on aura, par exemple, on tire une notion au sort. On tire, par exemple, je ne sais pas, la liberté. Vous tirez des cartes au hasard. Est-ce que vous pouvez faire des liens entre le thème, là, la liberté, et puis les cartes que vous avez en main? Alors, ça oblige de réfléchir un petit peu et ça oblige après à argumenter. Oui, tiens, moi, je poserais bien, tiens, les animaux-machines. Oui, est-ce que les animaux, c'est comme des machines, donc ils ne sont pas libres. Donc, ça colle, on est d'accord? Oui, oui, bon, ok, on pose la carte. Et donc là, en faisant ça, limite que ce soit vrai ou faux, limite, c'est plus tant le problème. Ce qui compte, c'est que l'élève réfléchisse et qu'il argumente. Et à partir de là, on est sur la voie de l'exercice de la dissertation, de l'argumentation. On pourrait dire avec des mots plus savants de la rhétorique, mais au moins, l'élève prend la parole et fait des liens. Et plus il aura manipulé les cartes, plus il sera à l'aise pour élaborer ses liens. Alors les publics visés, c'est vrai que c'est assez diversifié, mais ce soir, si vous pouvez venir pour la petite démonstration, ou l'expérimentation plutôt, parce que moi je ne vous montre rien, hein, c'est vous qui allez tester, l'idée c'est que ça vise un public assez large. Alors initialement, vous pourriez dire que c'est prévu pour les élèves qui passent le bac. Oui, mais pas seulement. Parce que les professeurs de philo peuvent l'utiliser dans leur classe et pour l'utiliser comme outil pédagogique, mais aussi en classe de première ou de seconde. Moi j'ai testé l'an dernier avec des élèves qui étaient en classe de première, Rousseau, Descartes, ça leur parlait, parce qu'ils l'avaient vu dans le programme, ou Pascal, ça leur parlait. Les animateurs de philosophie pour enfants, souvent, ont besoin de retrouver des grandes bases classiques de philosophie. J'en ai parlé l'an dernier, quand je suivais la formation, et ils étaient rentrés enthousiastes, parce que c'est simple, ça parle, et c'est un côté ludique. Donc on peut aussi l'utiliser avec des enfants. Alors ça, je vous avoue que je n'ai pas encore fait l'expérience avec des plus jeunes, mais le visuel, par exemple, tout à l'heure, quand on avait des cartes, vous voyez, un enfant, tout de suite, vous faites parler, là. Qu'est-ce que tu vois sur la carte? Comment Descartes est positionné? Quelle la relation avec la nature? Il a tout de suite des choses à dire. Et indirectement, l'enfant, même enfin, au collège et au primaire, va saisir les grandes lignes de la pensée de Descartes. Alors les étudiants, évidemment, donc là, l'Espace Mendès France a accepté qu'il y ait d'autres expérimentations jeudi prochain, donc le 25, entre 14h et 18h30. Donc là, des étudiants sont conviés, ou des gens de Mendès France qui n'auraient pas pu venir ce soir sont conviés. Parce que c'est pas que pour les enfants, c'est pour tous les publics. Et toute personne désireuse d'acquérir ou de retrouver une culture générale en philosophie. Et j'ai de plus en plus d'échos de parents, mais aussi de grands-parents, qui me disent bah, oui, moi j'aimerais bien que mes petits-enfants reprennent des bases de culture classique, pardon, et ça m'intéresserait de pouvoir utiliser ce genre d'outils. Donc voilà, et les atouts, bah, c'est vrai que dans le domaine de la philosophie, il n'y a pas beaucoup d'innovation. Les manuels se ressemblent tous un petit peu quand même. Donc là, au moins, on a un outil qui change de l'habituel. On a aussi un support qualitatif où il y a de l'esthétique, chaque détail est étudié, et où il y a un vrai apport de fond, parce que bon, j'enseigne la physique depuis 20 ans, j'ai un peu je maîtrise un tout petit peu le domaine, même s'il faut rester toujours modeste et humble, parce que quand j'écris sur Descartes, je sais qu'il y a des gens qui sont des vrais spécialistes de Descartes, et qui pourraient me dire, là, tel point, on pourrait le modifier. Oui, mais d'abord, c'est les aides de terminale auxquelles on s'adresse, d'abord. Donc, à bac plus 3, bac plus 5 ou en thèse, on peut rentrer dans le détail plus approfondi. Mais ici, on a quand même un vrai contenu qui s'appuie sur des textes classiques, sur des notions vraiment de base pour les élèves de terminale. Voilà. Et c'est une expérience ludique. On parle aujourd'hui de serious game. On pourrait même dire smart game, hein, jeu intelligent. Et parfois, on me dit, bah oui, alors c'est un jeu ou c'est un outil pédagogique. Alors, on est un peu entre les deux. On est un peu entre les deux. Et vous me direz ce soir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on s'amuse? Est-ce qu'on se prend la tête? Est-ce qu'on arrive à trouver une sorte de chemin entre les deux? À un moment donné, c'est les gens qui expérimentent qui peuvent dire ce qu'ils en pensent. Voilà. Alors je propose peut-être de regarder rapidement les cartes. Je vous les passe, parce que je ne vais pas non plus trop déborder sur le temps de mon collègue qui va suivre. Mais si je pars encore 5 minutes, je vous montre un peu, je vous mets les cartes en main pour que vous puissiez avoir un peu une idée de la manière dont ça fonctionne. Et s'il y a des questions, j'y réponds avec volontiers dans quelques instants. Donc, je repasse le micro à Jackie. vous amène les autres cartes après.
Là, vous avez gagné Max, donc je la montre, je la récupère après. Et je ne sais pas si faut que ça t'intéresse, que je fasse un petit peu d'œil. Là, vous avez Pascal. Là, vous avez Nietzsche. Et vos collègues qui vont là-bas, je lui confie pour tous quelques instants.
Ah, avec plaisir.
Et oui, approchez-vous de la dame pour voir ce que j'ai, sinon j'ai pas cette carte pour tout le monde. Là, vous voyez, vous avez les cartes, la mise autour de des cartes, par exemple, que j'ai un petit coup d'œil. Alors, là, vous avez eu.
Marx.
Alors, Marx, vous avez dans un instant, ça, j'ai sous la main celle de Pascal. Pascal, c'est. Voilà, voilà. Essayez de voir si ça fonctionne. Essayez de voir si vous avez retrouvé les concepts associés aux auteurs. Donc, vous m'avez dit, c'est Marx. Voilà. Et puis j'ai de voir à quoi ça correspond, jeter un coup d'œil, est-ce que ça marche, est-ce que ça nous parle. Donc là c'est Freud, voilà.
C'est moi qui ai.
Je pensais que j'étais rapporteur.
Donc je t'ai dit, vous avez 7.
Ah, ok.
Vous les êtes invités autour, vous voyez si ça fonctionne. Tenez. Normalement, si tout va bien, vous avez 7 cartes par auteur. Est-ce que vous êtes non? Et donc le principe de base, si vous voulez, c'est que vous posez par exemple, la carte auteur devant vous, voilà, du côté illustré, et puis vous faites graviter autour déjà les notions. Pour dire, tiens, avec Nietzsche, il y a une notion de surhumain chez Nietzsche. Nietzsche, surhumain, c'est quoi? Ah oui, c'est ce personnage-là, surhumain. Donc vous posez le ouais, sur le A, et vous faites graviter surhumain. Le surhomme chez Nietzsche. Dieu est mort, ah oui, il y a un dieu là qui fait une drôle de tête, là, il a l'air d'être un peu moribond. Dieu est mort chez Nietzsche. Voilà. Donc si vous pouvez vous poser par exemple, une carte sur un support plat, genre. Et puis vous faites graviter autour les autres cartes. Donc, genre, tiens, ici, le silence éternel de cet espace infini de frais, tiens. Voilà, le loup qui aurait la mort. Voilà. Et comme ça, vous essayez de retrouver les autres. Normalement, en 10 minutes, alors on n'aura pas forcément 10 minutes maintenant, mais ce soir on les aura, vous pouvez retenir un auteur avec le dessin et ce qui gravite autour. Et lorsqu'on fait le test au bout d'une heure de vérification, vous verrez que inconsciemment, vous avez déjà retenu 7 x 6, donc 6 x 7, 42 notions. Alors l'idée c'est d'abord plus de peut-être comme ça. Et c'est-à-dire quand j'ai Rousseau, l'homme est libre et perfectible, l'homme est libre et perfectible. Comme un esclave affranchi, hop. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. L'enfant. Voilà. Donc en faisant graviter les cartes, normalement vous devez retrouver progressivement une logique. Donc ce qui peut vous aider, si vous voulez, vous mettez la carte au milieu. Et puis autour, vous faites graviter les notions. Par exemple, l'homme peut devenir comme maître et conseil de la nature. Qu'est-ce qu'il peut dire par là? Ah, l'homme est son cheval. L'homme peut devenir comme maître de sa nature, donc on peut mettre tout ça. Et si c'est la philosophie comme un arbre. Alors pour l'instant, on n'a pas le temps forcément d'étudier tout le détail. Mais un arbre, la philosophie ici. Donc vous tenez le dessin, ça. Le bon sens s'achoue du monde à mieux partager. Un même soleil pour tous les hommes qui posent sur l'époque. Et alors remarquez une chose, ou plusieurs choses, c'est que peut-être que vous êtes en train de discuter quand vous êtes deux. Donc il y a la mémoire auditive qui est en train de fonctionner, ce que vous parlez. Alors, la plupart des jeux sont conçus pour être utilisés à plusieurs.
Exploités à plusieurs, même si beaucoup peut être fait seul aussi. Donc, on discute, on va mémoriser. L'autre va présenter les choses autrement. Ensuite, il y a un aspect kinesthésique, puisqu'on bricole les cartes. Vous savez que les élèves, ils ne restent pas toujours en place, ils aiment bien bouger. Là, au moins, on bricole, on bouge des choses. Bon. Et puis, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, il y a la mémoire visuelle. Vous vous rendez compte que là, vous voyez une image et vous associez des images avec une image de base. D'accord ? Bon. Si on devait faire une sorte de résumé, vous savez qu'on parle aujourd'hui de 9 formes d'intelligence. Sur les 9, il y en a 7 que vous êtes en train de convoquer. Alors, comme j'ai tendance parfois à les oublier, je prends mon anti-sèche. Parmi les intelligences dont on parle habituellement, vous avez l'intelligence verbo-linguistique, c'est-à-dire que l'on parle. Si on est plusieurs, on parle pour découvrir le jeu. C'est ce que vous avez fait, donc intelligence verbo-linguistique. L'intelligence logico-mathématique, il y a des énigmes à résoudre, il faut faire les liens. Donc votre intelligence logico-mathématique, elle est elle aussi sollicitée à travers ce jeu. On parle aussi de l'intelligence visuelle spatiale. On l'a fait correspondre par exemple au fait de dessiner des cartes, à faire des puzzles. Ben là, quand vous mettez les cartes autour de la carte de départ, vous êtes en train de faire une sorte de puzzle. On parle de l'intelligence corporelle kinesthésique. Vous manipulez des cartes, donc cette intelligence est sollicitée. Alors, l'intelligence naturaliste, c'est celle qui consiste à collectionner, par exemple, ou à ou à connaître la nature. Donc là, je reconnais qu'on l'utilise peu avec ce jeu. L'intelligence musicale, j'ai pas mis une musique de fond pour vous faire maîtriser les auteurs. Ça aurait été peut-être mieux, mais c'est vrai que l'intelligence musicale est peu sollicitée avec ce jeu. Mais les autres, maintenant, l'intelligence intrapersonnelle, c'est celle où vous travaillez sans avoir besoin de récompense. Les jeux ne sont pas conçus pour qu'il y ait un gagnant et un perdant. D'accord ? On apprend, c'est le plaisir d'apprendre. Et donc, c'est en ce sens qu'il y a vraiment une démarche qui est faite individuellement. On parle aussi d'intelligence interpersonnelle, c'est lorsqu'on travaille en groupe, d'accord ? Et là, à partir du moment où vous êtes deux et où il y a un échange, d'accord ? Cette intelligence interpersonnelle est sollicitée. Voilà, donc sur les 9 intelligences qu'on dit multiples aujourd'hui, vous avez sollicité à peu près 7. Donc si vous voulez voir davantage comment ça fonctionne ce soir, ben, je vous invite à venir à 17h à l'espace Mendès France, donc ce sera au niveau de la CAFET, je crois, que l'on pourra faire cette expérimentation. Alors, j'en profite pour vous faire passer, si vous le souhaitez, puisque peut-être que vous ne serez pas tous là ce soir à 17h, une feuille sur laquelle je vous invite à noter, si vous êtes d'accord, nom, prénom, en tout cas, l'adresse mail et téléphone, si vous voulez des informations, lorsque le jeu sera lancé, disponible, lorsqu'il y aura d'autres expérimentations. Alors, je ne sais pas ce qui est mieux, si je suis passé la feuille ou si vous voulez, ou si on la met à la sortie, comme vous voulez. Voilà, donc je vais récupérer les cartes, comme ça on les retrouvera ce soir. Merci madame. Bon, si vous voulez, comme ça je... Merci monsieur. Merci. Ah, j'ai dû... Donc ça c'était la carte de Marx. Donc vous en aviez 8 au lieu de 7. Oui, d'accord. Mais comme j'ai pratiquement terminé mon intervention. Ah oui, je récupère après. Merci. Merci, cher collègue. Hop. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions avant que je...
Il faut peut-être que tu précises, c'est un peu annexe, mais quand même pas complètement, ton rôle, prof de philo et par rapport à une entreprise aussi.
Oui, donc c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, puisque je suis professeur de philosophie en terminale. J'anime aussi la section européenne philo-anglais dans mon lycée. Je suis aussi professeur de SES puisque j'ai initialement un diplôme d'économie de Sudoku Poitiers à l'époque et donc j'accompagne depuis plusieurs années, merci beaucoup madame, j'accompagne des mini-entreprises, c'est-à-dire qu'il s'agit d'aider les élèves à développer des projets. Donc en début d'année ils choisissent un projet, ensuite ils doivent faire les sondages, vérifier que c'est une pertinence, ils doivent donc le fabriquer, alors ça peut être un objet mais ça peut être aussi un service qu'ils vont concevoir. Et donc ils créent l'entreprise en début d'année et ils vont clôturer les comptes en fin d'année. Et c'est un exercice qui est très très intéressant pour les élèves. Et une chose qui m'a étonné, c'est que les élèves ont dit lors d'une rencontre avec des élèves de l'école d'art appliqué, qui vont les aider pour leur projet cette année, les élèves ont dit pour plus de la moitié que la raison de leur choix de cette option, c'était le fait qu'on travaillait en groupe. Pour travailler en groupe. Ben oui, c'est vrai, de fait, on ne travaille pas tant que ça en groupe au niveau des... Là, on parle toujours de pédagogie, on travaille beaucoup, ben, vous voyez, là on est un peu installé comme une classe, bon, ou à l'université, bon, le professeur donne un contenu, chacun le prend, et puis et c'est ça le fonctionnement le plus classique. Et les élèves sont de plus en plus demandeurs pour travailler en petits groupes. Alors ce qu'on fera ce soir, par exemple, il y aura un temps où vous aurez un jeu de cartes, vous serez plusieurs, bon, vous pourrez travailler un peu seul, mais à un moment donné, vous allez travailler collectivement. Et ça, les élèves sont de plus en plus demandeurs. Et dans le principe de la mini-entreprise, il y a vraiment l'idée qu'on décide ensemble du projet, on décide ensemble du nom de la mini-entreprise, on décide ensemble de l'affectation du budget, par exemple, etc., etc. Et ça, c'est assez nouveau, en fait, pour les élèves. Alors nous, ça nous paraît peut-être aller de soi, quand on a un peu plus d'expérience, mais quand ils ont 14-15 ans, c'est vraiment nouveau.
J'ajoute d'ailleurs à ça, puisqu'on a eu Jean-Marc Neveu ce matin, Jean-Marc Neveu, président, ex-président du CJD, et par ailleurs, vice-président d'EPA, c'est-à-dire Entreprendre pour apprendre. Entreprendre pour apprendre, c'est la formule qui consiste sur toute la France à développer des mini-entreprises dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Y compris, alors il n'y a que très peu de régions qui le font, mais par exemple Hauts-de-France le fait, y compris des mini-entreprises dans les centres de loisirs sans hébergement, dans les centres socioculturels. Donc c'est toute une démarche très importante à prendre en compte, je pense. Bah écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, Stéphane, donc pour ceux qui veulent jouer à la philo, 17h à la cafette en haut, et merci de ton intervention.
Est-ce que je peux juste avoir un peu une idée du nombre de personnes qui restent ce soir par rapport aux jeux que j'ai préparés ? Donc, au moins 2 personnes ?
Oui.
D'accord. Donc, ce sera avec grand plaisir. Et donc, 3. Donc, celles qui pourraient éventuellement ne pas venir ce soir, je vous rappelle, donc jeudi prochain, Mendes France nous permet de faire l'expérimentation entre 14h et 18h30. Voilà. Et puis si vous voulez aussi que je vous envoie des informations pour d'autres expérimentations, ou eh bien voilà, je récupère les coordonnées des personnes qui veulent les laisser et auxquelles j'enverrai des informations par la suite. Je vous remercie pour votre attention.
Merci Stéphane. Bonne fin d'après-midi. Merci de ta présence en tous les cas. Je vais donc appeler Raphaël Lopez qui va nous parler. Alors moi j'ai dit urbex, mais il va développer ce que ça veut dire et je lui laisse le soin.
Merci Jackie. Alors je vais juste ouvrir mon
prenez le temps.
PowerPoint. Alors bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Lopez. Merci Jackie de m'avoir invité pour parler de ma passion qui s'appelle l'urbex. Alors qu'est-ce que l'urbex ? C'est l'exploration de lieux abandonnés. C'est une passion atypique et assez insolite. Je pratique cela depuis 2013, ça m'est venu un peu par hasard. C'est-à-dire qu'avec ma compagne en 2013, on cherchait à partir en vacances, mais on cherchait un projet un peu plus atypique qu'un tour lambda. Donc on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire d'original. Et on s'est dit, on n'a qu'à aller voir des lieux avec une histoire marquante, un peu glauque. Alors je ne vous cache pas, je suis quelqu'un qui est assez fan de tout ce qui touche les faits divers, faire entrer la cuisine. Donc du coup, on cherchait quelque chose d'assez glauque, d'assez macabre comme tour touristique. Et donc initialement, on a fait des étapes à travers la France. Donc c'est-à-dire qu'on a sélectionné des villes-étapes qui concerne de grands tueurs en série marquants français. Donc, ce n'est pas très réjouissant, mais c'est ce qu'on avait prévu initialement. Donc, on devait passer par Auxerre pour aller voir la maison d'Émile Louis, par exemple. Donc, ce n'est pas mes idoles, mais c'était vraiment le projet initial. Et il nous manquait des étapes parce que c'était un voyage de 2 semaines. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour agrémenter ce voyage ? Et on s'est dit, pourquoi pas rajouter des lieux qui ont cette thématique un peu glauque, un peu macabre. On s'est dit, pourquoi pas aller faire des lieux abandonnés ? Et jusqu'à présent, on ne savait pas que c'était une pratique qui existait à travers la France et même à travers le monde. Il y a plusieurs pratiquants, on va dire qu'en France, il y a des centaines de passionnés de lieux abandonnés. Et donc, à travers ça, on a pris goût à aller voir ce genre de lieux abandonnés. Donc, qu'est-ce que l'urbex ? Qu'est-ce qui pourrait définir cette pratique-là ? Avant tout, ce sont des lieux qu'on visite sans autorisation parce que c'est des lieux qui représentent des dangers de base, donc c'est-à-dire des lieux qui peuvent s'effondrer ou il peut y avoir de l'amiante. Donc, c'est des lieux qui sont inaccessibles avec des autorisations officielles. Et c'est ce qui fait aussi un peu l'adrénaline de cette pratique, c'est d'y aller sans autorisation. Et donc, pour ça, on a quand même des règles de base, mais strictes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effraction. Donc, c'est-à-dire que quand on est devant un hôpital, une villa abandonnée, un hôpital abandonné, s'il n'y a pas d'accès, c'est-à-dire porte fermée, vite fermée, on ne va pas dégrader un lieu pour pouvoir rentrer, c'est-à-dire c'est au bonheur à la chance, quoi. Pas de vol non plus, parce qu'il y a beaucoup de lieux qu'on peut voir, type château, villa, maison, où il réside des objets qui peuvent représenter un intérêt probant pour tout ce qui peut être antiquaire et autres personnes qui seraient intéressées par la valeur ancienne que peut représenter ce genre d'objet qu'on peut trouver. Donc pas de vandalisme et confidentialité, c'est-à-dire que tous les reportages que je publie, que les autres explorateurs de lieux abandonnés publient, on ne dévoile pas d'adresse pour pas qu'il y ait des personnes de mauvaise intention qui puissent aller dans ces lieux-là pour justement vandaliser, piller les lieux, ce qui arrive assez fréquemment. Donc, comme j'ai dit, mon parcours, on a commencé en 2013. On a ouvert le site urbexsession.com. Donc là, vous voyez un screenshot de notre site officiel. Donc, c'est là où on peut retrouver par catégorie, par localisation, tous les types de lieux qu'on peut voir. Donc, châteaux, hôpitaux, à travers tous les pays dans le monde entier. Donc, découverte de la pratique. Et donc, jusqu'à maintenant, c'est vrai que quand on parle de lieu abandonné, on peut s'imaginer qu'un lieu abandonné, c'est vraiment la vieille ruine sans intérêt avec la toiture qui menace de s'effondrer. Et finalement, aussi étonnant que ça puisse paraître, on trouve des lieux hein, en France et même autour de Poitiers où il y a des lieux qui sont vraiment, où il réside une richesse assez incroyable. C'est ce genre de trésor caché qu'on prend plaisir à découvrir. Il y a le côté un petit peu exclusif. Et ce qui apporte cette pratique-là, c'est qu'on peut faire un tourisme vraiment alternatif et atypique, c'est-à-dire qu'on va éviter tout ce qui est position géographique, où il y a plein de monde. Là, c'est carrément un tourisme associable, où on est sûr qu'on va à peu près être seul dans ce genre d'endroit. C'est un musée exclusif qu'on prend plaisir donc à découvrir. Donc voilà, alors là, ce qui s'est passé en 2013, comme je vous ai expliqué initialement, c'est qu'on a voulu faire un tour mettant avec des étapes de fait entrer l'accusé de faits divers. Et donc en 2013, on est parti en Belgique découvrir la maison de Marc Dutroux. Donc je pense que vous connaissez à peu près quelle personne est Marc Dutroux. Une personne assez emblématique et polémique en Belgique. Et en fait, après quelques recherches sur Internet, j'ai découvert que sa maison, depuis son arrestation en 1996, était toujours accessible, enfin du moins n'était pas démolie. Et donc, sans savoir quoi trouver, je suis allé avec ma compagne donc, visiter cette maison qui se trouve en plein centre d'un bourg. Et donc, une fois sur place, on a découvert que la maison était encore là, ouverte au cadran, comme vous pouvez voir, la porte principale est ouverte. Et donc là, on entre dans une particularité qui est assez incroyable, c'est de visiter des lieux aussi tragiques qu'ils puissent paraître, encore accessibles, comme la maison de Marc Dutroux. Donc une fois à l'intérieur, on peut découvrir donc, des archives liées à ce tueur en série, à ce pédophile, donc, comme par exemple, qu'on peut voir à droite, une valise de son fils Frédéric Dutroux. Et malgré tous les scellés qu'on peut trouver dans ce genre d'endroit, il reste encore plein de choses incroyables à découvrir. Donc, une destination favorite de l'Orbex des lieux abandonnés, c'est Tchernobyl. Tchernobyl, la ville de Pripyat, où depuis 1986, avec l'explosion de la centrale nucléaire, il s'est développé une économie incroyable en Ukraine, où on peut visiter légalement et illégalement cette ville. Moi, je l'ai faite en 2017 légalement parce qu'il y a un tour opérateur qui m'a invité, parce que c'est vraiment une tendance assez incroyable qui se développe à travers les pays anglo-saxons, allemands, où ils cherchent vraiment à découvrir des destinations plus atypiques. Et Tchernobyl se développe incroyablement. C'est-à-dire que moi, quand j'y suis passé en 2017, il y avait vraiment plusieurs bus touristiques à deux étages qui traversaient la ville, et c'est assez incroyable. Donc effectivement, là, pour le coup, le plaisir n'est pas le même parce que là, c'était légal. Donc j'avais des guides avec moi qui nous disaient où aller et quoi faire. Donc la démarche n'est pas la même, mais je ne pouvais pas cracher de visiter Tchernobyl qui représente quand même un Graal dans les lieux abandonnés. Et donc clairement, Tchernobyl est un peu la synthèse de tout ça, de ce qu'on cherche, c'est-à-dire découvrir un peu le passé qui reste dans son jus, c'est-à-dire qu'un musée, ça peut être un peu aseptisé, c'est à travers des vitrines. Là, on est carrément dans quelque chose qui est à la nature, à la liberté. Si par chance l'homme n'a pas trop dégradé et pille le lieu, on peut trouver donc des archives très intéressantes. Donc moi, j'y suis allé avec un groupe de 30 personnes, donc c'était pas non plus une immersion qui est incroyable, mais vraiment Tchernobyl permet justement de découvrir le passé comme l'URSS, la fossile marteau typique architecture allemande des villes de l'époque et tout, donc c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ce qu'il faut se dire, c'est que Tchernobyl actuellement ne représente pas un taux de toxicité plus grand que d'autres villes comme New York ou Paris, c'est-à-dire que la dose nucléaire se focalise sur la nature, les arbres ou quoi. Donc la ville elle-même ne représente aucun danger. On peut y aller sans masque, sans protection agrémentée. On peut y aller à l'air libre tant que ça ne dépasse pas 24 heures, 48 heures. Parce que même on peut y dormir. Il y a des hôtels qui résident autour de la ville de Pripyat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Pripyat, c'est la grande ville de Tchernobyl. Mais tout autour de Pripyat, il existe plein de villages justement propres à la zone de Tchernobyl, où depuis quelques années, il se passe un événement particulier, c'est que d'anciens habitants de cette zone ont commencé à réhabiter dans leur maison. On est en autorisation d'y aller parce que c'est des personnes âgées qui font fi justement des risques qui peuvent résider d'habiter dans cette zone radioactive. Et des nombreux reportages qu'on peut voir, c'est des gens qui peuvent toujours faire de l'agriculture, manger Made in Tchernobyl, donc sans danger. Enfin, sans danger. Je ne pense pas qu'ils font des analyses de sang tous les jours, mais en tout cas, ça fait des années qu'ils habitent dans cette zone radioactive et qu'ils sont toujours parmi nous. Donc là, on va rentrer dans un autre pays qui est le Japon. qui représente également l'extase dans les lieux abandonnés. C'est parce que les Japonais, c'est un peuple qui sont très, on va dire, respectueux des lieux. Ils ne vont pas piller, ni démolir, ni vandaliser des lieux. Donc là, on va découvrir des endroits qui sont totalement préservés depuis des dizaines, des vingtaines d'années. Et donc, on est parti un mois avec ma compagne, un peu au hasard. On a fait quelques recherches au préalable sur Internet pour trouver quelques destinations, on va dire, insolites, abandonnées. Et donc, ce qui réside le plus au Japon, c'est dans les zones, on va dire, campagnardes. C'est toutes les écoles, les hôtels qu'on peut trouver d'abandonnés parce que c'est des lieux qui, jadis, étaient des zones touristiques. Mais au fil du temps, justement, vu l'éloignement à rapport à des grandes villes comme Tokyo, les gens, il y a l'exode rural comme il peut exister en France, et donc du coup on peut trouver de nombreux lieux abandonnés qui sont restés dans leur jus. Donc là à gauche c'est un piano d'une école abandonnée. Alors les pianos, il faut se dire que ce soit en France ou dans le monde entier, des pianos on en trouve quasiment dans tous les lieux abandonnés. C'est un peu le point commun à tous les lieux qu'on peut explorer, c'est assez incroyable. Et donc à droite vous avez un bar dans un restaurant qui est resté figé dans son temps depuis les années 70. Donc là, on peut y retrouver la décoration justement de l'époque. Et c'est ce qu'il y a de fabuleux, c'est de remonter le temps à travers ce genre d'exploration. Donc tout n'est pas sans danger, parce que comme vous pouvez le voir sur la photo, ça peut menacer de s'effondrer, le plafond, le sol, tout est boueux. Mais c'est ce qui rajoute un peu l'adrénaline de la chose. Il y a même des parcs d'attractions abandonnés. Donc ça, c'est encore une grande particularité du Japon. C'est qu'au Japon, ils adorent tout ce qui est ludique, jeu. Donc ils ont quasiment, à chaque grande ville, un parc d'attractions qui est associé à la ville. Même dans les aires d'autoroute, on peut trouver des grandes roues. Ils ont gardé leur esprit enfant jusqu'à l'âge adulte. Donc du coup, là, vous avez en face de vous un parc d'attractions qui a été abandonné dans les années 70 ou 80, si je ne me trompe pas. Et là, donc, on peut y trouver une grande roue d'époque, un carrousel qui est hyper bien préservé. Donc là, on rentre dans un autre cas de figure encore plus insolite. C'était un ancien là où on peut voir les serpents, je ne sais plus le. Ouais, merci. Et donc là, ça a été la particularité. On avait vu à l'époque sur Google qu'on pouvait trouver ce genre de lieu. On a été dans cet ancien lieu. Et bon, il ne faut pas avoir la phobie des serpents parce que là, à vrai dire, quand on est rentré sur place. On marchait sur des peaux de serpent, on voyait ce genre de bocaux, donc c'est assez incroyable. Donc là, c'est une clinique qui se trouve dans la province d'Hokkaido. Donc là, on est typique dans le cadre macabre, glauque, dans type film d'horreur. On voit l'ancienne salle d'opération avec nous à l'époque, on a été en février, donc il neigeait, tout le lieu était glacé. Là, comme on peut voir dans la salle d'opération. Le sol était clairement glacé avec les seringues, les autres outils qui étaient totalement figés dans le sol. Donc c'est là, comme on peut le voir, les anciennes bottes, les flocons, les bocaux qui sont à droite, totalement figés dans le temps. Ça, c'est une clinique qui est abandonnée depuis les années 80, donc c'est assez incroyable. Donc là, on passe dans un autre esprit ludique, les bowling. Donc on peut voir toutes les chaussures type à droite qui sont en train de se décomposer. Et donc, c'est vraiment incroyable toute la richesse qu'on peut trouver à travers nos explorations. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que le préambule à tout ça, c'est qu'il faut être hyper discret pour visiter ce genre d'endroit, parce que tout le voisinage qui peut nous voir aller vers ce genre d'endroit peut nous considérer à juste titre comme des vandales, comme des voleurs. Donc, sans autorisation, il faut avant tout être hyper discret. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui sont autour du lieu en train de nous regarder, ben, on ne va pas y rentrer parce qu'ils vont automatiquement appeler la police. Et donc, on va éviter ce genre de rencontre. Et depuis 2013, j'ai la chance avec ma compagne qu'on n'ait jamais été dans ce genre de cas de figure. Donc là, on est typique dans les écoles japonaises avec les vélos à une roue, les anciennes salles d'école totalement figées dans le temps, comme je vous l'ai dit. Là, on est dans les temples spirituels. Avec toutes les statuettes à droite dorées. Alors, je ne pourrais pas vous dire la signification que ça a, parce que je n'ai pas trop étudié le sujet. Là, c'est encore une autre école. Alors là, ça a été une rencontre insolite, parce qu'en montant les escaliers, c'était dans la région d'Hokkaido, justement. On a été prévenu que c'est une région où il y avait beaucoup d'ours. Donc, vu que c'est des lieux qui sont assez reculés, on se méfiait à chaque fois de faire une mauvaise rencontre animalière. Et en montant justement les escaliers de ce lycée abandonné, on tombe nez à nez avec ce phoque, mais qu'on avait pensé au début que ça soit vraiment quelque chose de vivant. Donc, du coup, c'était la grande surprise. Et donc, voilà. Là, c'est un parc d'attractions abandonné sur la gauche qui était en thématique canine, c'est-à-dire que c'était un parc d'attractions pour les chiens. C'était les maîtres qui pouvaient venir s'amuser avec leurs chiens, donc avec des petits trains, tout ça, avec les courses de canines. C'est vraiment propre au Japon, ce genre de côté extraverti. À droite, c'est une entrée d'un street club, de bar à filles, qui a abandonné. C'est propre aussi au Japon d'avoir beaucoup de bars de cette thématique-là, ou même de ce qu'on appelle de love hotel, des hôtels où on pratique, comme le nom l'indique, des activités plus ludiques, parce qu'au Japon, ils vivent très âgés, enfin, la famille vit vraiment ensemble, il n'y a pas le côté autonome, ils vivent avec la mère, avec l'arrière-grand-mère, avec la grand-mère, donc du coup, pour tout ce qui est rencontre sentimentale, même avec des couples légitimes, ça se passe généralement en dehors des foyers. Donc là, on peut le voir justement à l'intérieur avec les petits tabourets qui sont devant la piste de danse. Là, c'est tout ce qui est centre thalasso. Donc, Moé, c'est pas du tout dégradé. Donc, nous, notre mission première, on va dire si c'est une mission, c'est avant tout de photographier un patrimoine qui est en danger. Là, c'est un château qui est dans le sud de la France. Sa particularité, c'est qu'il a été littéralement abandonné par ses propriétaires qui habitent, je crois, à l'étranger. Et faute de moyens de l'entretenir et de subventions, ce sont des lieux qui tombent littéralement en ruine parce que ça coûte tellement cher à entretenir qu'ils préfèrent laisser tomber ce patrimoine qui trouve rarement preneur. C'est tellement cher à acheter et à entretenir que finalement, c'est un peu le fléau français d'avoir beaucoup de châteaux qui tombent en ruine. D'où la mission de Stéphane Bern qui récemment a lancé un jeu avec la Française des Jeux pour essayer de sauver le patrimoine français, mais la tâche s'annonce très difficile parce que au nombre de châteaux qu'on voit, de belles villas, de manoirs abandonnés, ça risque d'être une mission assez périlleuse, mais tant mieux si des personnes réagissent pour essayer de sauver cela. Donc avant tout, nous, quand on découvre un lieu abandonné sur Google à travers la presse locale ou autre reportage, on doit se dépêcher pour réaliser notre reportage, parce que c'est menacé souvent donc, de vandalisme, de pillage, de réhabilitation. Donc réhabilitation, c'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter à un lieu de pouvoir être réhabilité. Et la démolition. La démolition, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Tous les châteaux ou autres lieux qui ne sont pas sauvegardés en monuments historiques ont ce destin-là. Et encore plus dans les zones urbaines, où par besoin justement de construction d'appartements, de maisons, avec le besoin immobilier qu'il y a, ce genre de demeures sont en danger, sont vraiment en danger. Donc là, on peut voir un extrait de rue de presse où on peut voir, par exemple, les églises et les chapelles qui sont désertées d'année en année et qui sont démolies, on ne va pas dire quotidiennement, mais il y en a des dizaines par année qui sont démolies. Là, on peut voir qu'il y a marqué 38 églises démolies depuis l'an 2000. Donc je vous avoue que le constat a amplement augmenté. Parce que les mairies, surtout les mairies rurales, n'ont pas les moyens d'entretenir cela. Et surtout, à quel but si ce sont des lieux qui sont totalement vidés de leur substance. Ce qu'on peut voir d'ailleurs dans des pays comme le Royaume-Uni, c'est des lieux qui sont reconvertis, je parle des églises et des chapelles, en bars ou même en habitations, quand ça peut être sauvable. Mais quand c'est des lieux où ils nécessitent vraiment une réhabilitation forte, la tractopelle ne fait pas des dadas et démolit ce genre de lieu. Récemment, l'année dernière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent, qui se scandalisent justement en rapport à ce patrimoine qui part en fumée, ils se mobilisent pour essayer, à travers pétitions et autres alertes, de sauver de magnifiques châteaux. Mais souvent, justement, ce sont des efforts qui sont vains parce que quand la mairie est déterminée à démolir ce genre de lieu, ils le font malgré tout. Là, ça a été le scandale de l'année dernière en Belgique. Le château de Noisy, qui se situe dans l'Argent de l'Hérault, c'est un château typique vraiment de la Belle au bois dormant. C'est un château qui a fait le tour du monde entier. Parce que l'architecture que représente ce lieu
et majestique, majestueuse, excusez-moi. Et donc le propriétaire qui habite dans ce domaine-là, on avait un peu marre justement, c'est un peu les travers de notre pratique, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent l'urbex, l'exploration de lieux abandonnés. Et donc du coup, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui fréquentent illégalement ce genre de lieu pour faire des photos, une excursion, une promenade, c'est des gens qui sont un peu lassés de faire la sécurité par eux-mêmes, d'engager des gens pour éviter justement que quelqu'un se fasse mal à l'intérieur, voire un périple mortel en tombant d'un étage. Ils décident tout bonnement de démolir un lieu. Et ça, c'est un peu le drame. Donc, sa particularité, c'est que ce château-là était totalement investi par la mérule, qui est un champignon qui ne laisse très peu de chance aux demeures. Et donc, du coup, les tractopelles sont venus démolir ce lieu. Je vous invite à aller voir à quoi ressemblait ce lieu en tapant Château de Noisy, Belgique. Vous verrez que c'était un lieu vraiment mémorable. Et c'est clairement un drame. Donc là, on continue notre revue de presse en précisant que la plupart des églises sont non classées, ce qui leur laisse peu de chance justement de résister aux démolitions. Voilà. Donc la recherche, comment on recherche de lieux abandonnés ? Avant tout, c'est la presse locale. C'est-à-dire que quand la presse locale type Sud-Ouest fait des articles pour préciser qu'une entreprise est en faillite ou un parc d'attraction est abandonné depuis plusieurs années, nous, ça nous permet justement de nous rendre sur place et d'aller faire nos photos. La veille sur Google, alors pour la recherche numérique, c'est tout simple. On peut taper au préalable des mots-clés type château abandonné, hôpital abandonné sur Google et être alerté en alerte justement dès qu'il y a un article de presse qui parle de ce type de recherche. Et nous, directement, quand on est averti de nouveaux articles qui parlent de ce genre de lieu, ben, on essaie de se dépêcher pour aller les prendre en photo. Indice sur photo. Là, on parle de mes collègues explorateurs. Quand ils publient des reportages sur Internet, il se peut que, malgré la confidentialité qu'on doit apporter pour ne pas justement apporter de personnes qui puissent vandaliser les lieux, ils peuvent laisser des indices volontairement ou involontairement, c'est-à-dire quand ils vont prendre en photo une brochure touristique dans un château, dans une maison abandonnée. Si on voit que la brochure touristique concerne une ville ou un lieu, on se dit bon, peut-être ce lieu se situe aux alentours de cette ville, donc on va à travers ce genre d'indices ou peut-être des factures prises en photo, on va repérer en zoomant bien sur la photo le nom de la personne, son adresse donc de la maison de la ville abandonnée pour trouver donc ce genre d'adresse. Par hasard sur la route, que ce soit sur le train, la voiture ou quoi, quand on voit un lieu ou avec un jardin en friche, un portail tout rouillé, on se dit peut-être il y a un indice comme quoi ce lieu est abandonné, même si ce n'est pas une valeur sûre, parce qu'il nous arrivait par expérience de rentrer dans un domaine qu'on pensait abandonner et en ouvrant la porte, on tombait à nez sur le propriétaire, donc ce qui peut avoir comme conséquence des rencontres un peu désagréables. Et des échanges tout simplement entre explorateurs de lieux abandonnés où on s'échange un peu, comme des cartes Pokémon, tiens, tu me donnes ci, je te donne ça, donc c'est un peu la pratique dans l'urbex. Après l'exploration d'un lieu qu'on va faire, on va se documenter beaucoup, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des photos d'archives, ce qui peut être intéressant comme comparatif avant-après. Donc pour ça, on va s'aider de bases de données qui se trouvent sur Internet, comme le site d'Elcamp. Le site d'Elcamp, c'est un site d'anciennes cartes postales qu'on peut trouver. Donc c'est un moteur de recherche, on va taper par exemple la localisation d'une ville ou le nom d'une villa ou le nom d'un château pour trouver justement des photos d'époque. Donc là, comme cet exemple le montre, là, c'est un château qui se trouve à Nantes, justement juste à côté de l'aéroport de Nantes. Et donc là, on voit un avant-après assez radical de l'état d'avant et l'état d'après, ce qui est quelque chose de passionnant. Après, pour compléter les informations, toujours dans le même château qu'on a vu juste avant, on va se renseigner sur les cartes IGN, les cartes aériennes qu'on peut retrouver sur le site remonterletemps.com. Et là, en fait, c'est vraiment une source de données très, très importante parce qu'on peut remonter dans des cartographies qui remontent dans les années 1920-1930 jusqu'à maintenant, et donc ce qui permet de remonter le temps et voir à peu près comment le lieu progresse d'un point de vue aérien. Donc ça peut être l'urbanisation qui grignote petit à petit le lieu ou voir la toiture qui est en mauvais état au fil du temps. Donc ça, c'est quelque chose de très passionnant. Donc là, on rentre dans une autre étape de l'urbex, c'est-à-dire les dangers et l'effet de mode. Parce que depuis 2013, il y a de plus en plus de pratiquants qui s'exerce est de plus en plus jeune. Et c'est un peu le fléau de notre pratique, c'est qu'avec YouTube, il y a des adolescents, même des enfants, qui s'adonnent à ce genre de pratique, mais sans en prendre la conséquence et les dangers qui peuvent en découler. Et depuis donc ces dernières années, il y a de plus en plus de personnes, donc d'enfants et d'adolescents, qui se blessent, voire plus dramatiquement, perdent la vie en allant explorer des anciens sanatoriums, des châteaux abandonnés, parce qu'ils y vont pour s'amuser, ils n'y vont pas dans une démarche d'art artistique, de recherche, de documentation. Là, c'est vraiment l'aspect, on y va en groupe, on va faire un cache-cache, on va se faire peur, et du coup, ça emmène ce genre de déconvenues dramatiques. Là, c'est à Angoulême, dans un chai qui est toujours d'actualité, justement. Ça a été abandonné depuis 2004. Le fait divers remonte en 2015. Donc le propriétaire a bien été alerté de cet ado qui a été tué en jouant avec ses amis dans ce chai à vin. Et malgré ça, depuis maintenant, on est en 2018, 3 ans après, le lieu est toujours autant accessible parce que ce sont des lieux qui sont très difficilement sécurisables, à moins d'y apporter beaucoup de moyens, c'est-à-dire un gardien permanent qui va vouloir surveiller le lieu, caméra de surveillance, mais la plupart des propriétaires sont assez démunis face justement à cette nouvelle mode de personnes qui visitent ces friches-là. Donc là, on continue dans l'aspect dramatique. Ça, c'est aussi un fait divers qui remonte à 2 ans. Donc généralement, ce qui se passe quand il y a beaucoup de faits dramatiques qui se passent dans ce genre d'endroit, c'est que comme mesure de base, ils vont faire quoi ? Ils vont murer les accès d'un lieu. Mais ça, c'est une protection qui est assez rudimentaire, dans le sens que quelqu'un qui est vraiment motivé à entrer dans ce genre d'endroit vont même aller avec la masse pour démolir les protections, vont casser les murs directement avec la masse ou autre moyen. Et donc là, on peut voir justement que YouTube a causé malgré lui cet effet de mode dramatique. Et là, je vous ai pris en capture d'écran des titres de vidéos qui emmènent justement le clic, c'est-à-dire tout ce qui peut emmener à ça tourne mal, ça se passe mal. Donc ça emmène la pratique dans un sens très péjoratif. Quand on dit l'orbex, maintenant on se retrouve avec ce genre de contenus qui sont assez préjudiciables, où on n'est pas vraiment dans une démarche passion artistique, dans une démarche vulgairement de clics et de contenus qui sont assez pauvres. Arrestation par la police, paysan qui veut nous tuer, poursuite, on se fait caillasser. Donc vraiment, on a des titres vraiment exhaustifs pour attirer les gens pour regarder les vidéos. Moi, à titre d'exemple, ça fait depuis 2013 que je fais cette passion-là, il ne m'est rien arrivé. Pas de police, pas de fantômes, pas de caillassage. Donc on peut visiter des lieux abandonnés en restant vivant, il n'y a pas de souci avec ça, hein, mais en prenant quand même des prudences. Donc là, on reste dans les titres un peu putaclic, comme on dit. Donc c'est pas du tout notre démarche. Donc ce qui se passe aussi dans cet effet de mode, c'est qu'avant, comme je vous ai dit, les adresses, on les recherchait à travers Google, à travers des articles de presse, à travers des indices sur les photos. Et vu l'engouement de notre pratique, maintenant il y a des petits malins qui se sont mis à créer maintenant depuis quelques temps des sites internet vendant les adresses. Donc moyennant finance, des gens qui auraient la flemme de trouver des adresses par leurs propres moyens, ce qui fait un peu l'ADN de notre pratique et le plaisir de recherche. Les gens qui auraient un peu la mollesse de faire eux-mêmes les recherches peuvent, moyennant finance, excessive, hein, voyez-vous, 50 euros, 25 euros pour visiter des lieux abandonnés, peuvent s'acheter eux-mêmes des adresses. Donc là, on tombe un peu sur quelque chose qui est dramatique, c'est qu'effectivement, ces lieux-là sont assez préservés de nous, explorateurs, mais quelqu'un qui aurait des intentions assez mauvaises, comme des pieurs ou des gens qui voient qu'il y a des pianos, des choses à récupérer de valeur, sous les échanges de 10 euros, de 25 euros, vont s'acheter une adresse en sachant très bien que c'est un lieu qui n'est pas surveillé et qui est à l'abandon. Et à juste titre, va se dire « ça n'appartient à plus personne, donc je peux ramener un miroir, je peux ramener d'autres objets, des statues, tout ça ». Et donc généralement, c'est pour ça que nous, à travers le temps et les reportages successifs, on peut voir que ce sont des lieux qui sont dépouillés au fil du temps. Et c'est ça c'est quelque chose d'assez dramatique. Donc on va continuer notre visionnage. Pourquoi autant de lieux sont à l'abandon ? Donc ça peut s'expliquer par plusieurs façons. Les sanatoriums, il y en a encore des dizaines d'abandonnés en France. ce sont des grands complexes, des bâtiments imposants qui ont justement un titre, qui ont perdu leur utilité depuis la disparition de la tuberculose et qui sont trop chers à habiliter parce qu'ils sont situés dans des zones géographiques assez éloignées. Et donc, ils n'ont aucun intérêt, il n'y a pas d'investisseur qui aurait un intérêt, si vous voulez, à investir dans un lieu qui est trop cher à réhabiliter, qui n'apporte aucun intérêt pour, en titre de reconversion. Donc, les sanatoriums, c'est ce qu'on trouve le plus en France et même à travers l'Europe, on va dire. Les châteaux, donc disparition des propriétaires, trop cher à réhabiliter, à entretenir et problème d'héritage. Donc, la plupart, justement, des lieux, nous, qu'on visite, ce sont des héritages qui se passe mal à plusieurs personnes. Donc, du coup, vu que c'est difficile à les partager, les lieux souffrent de ces indécisions et en pâtissent à travers le temps. Comme on peut voir, ça, c'est un château qui a appartenu à une célébrité. C'est Jean Edernalier, un écrivain, que je pense que vous connaissez. C'est en Normandie. Et la presse locale a relayé régulièrement justement ce genre de gâchis qui existe en France, d'avoir ce genre de lieux emblématiques qui peuvent disparaître parce qu'il y a ce genre de soucis, de financement, et voilà. Les Jeux Olympiques, ça, c'est quelque chose qui arrive systématiquement à chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques qui sont organisés, que ce soit dans les pays asiatiques, au Brésil, tout ça. Ils mettent beaucoup, beaucoup de moyens à exproprier les habitants de quartiers pour démolir leur maison, leur habitation, et pour y construire de grands complexes qui vont être utilisés seulement pendant quelques semaines. Et après cet usage, là, par exemple, nous sommes en Grèce, dans l'ancien terrain de volley-ball. On l'a fait en 2015, et c'est des lieux, bon, il y a quelques lieux qui résistent un petit peu à l'abandon, donc qui trouvent une utilité après les Jeux Olympiques, genre les piscines olympiques, mais sinon, ce genre de terrain, voire même des aéroports qui ont été construits exprès dans le but des Jeux Olympiques, sont clairement laissés à l'abandon. C'est un gâchis qui est assez énorme. La faillite commerciale, donc c'est tout ce qui représente le cinéma, les bowling, les centres commerciaux, les parcs d'attractions. Là, par exemple, nous sommes dans un centre commercial en Italie, à côté de Milan, qui avait une thématique chinoise. Donc, on pouvait trouver tout type de commerce asiatique avec un grand complexe cinématographique. Et là, c'est un problème judiciaire, une faillite qui a fait que le lieu a été totalement abandonné. Donc là, on l'a appris à peu près 5-6 ans après son abandon. Là, maintenant, si je dois vous montrer des photos actuelles, vous allez pleurer parce que ça a drôlement changé. C'est-à-dire que tout le lieu a été tagué, cassé, pillé. C'est ce qui fait la médiatisation de ce genre de lieu. La crise économique favorise également les lieux abandonnés, la délocalisation, la fermeture d'usines. Donc là, à l'époque actuelle, on ne chôme pas. Malheureusement, pour eux, mais pas pour nous, parce que c'est notre terreau artistique. Mais c'est vrai que la crise économique favorise évidemment les lieux abandonnés. Les hôtels en faillite, la crise économique touristique. Nous, ce qu'on découvre dans des zones un peu rurales en France, c'est beaucoup, beaucoup de restaurants, d'hôtels qui sont abandonnés parce que les gens se détournent avec des destinations plus lointaines grâce au low cost. Donc, ils abandonnent un peu le tourisme de proximité. Qui fait que hop, je ne sais pas pourquoi il y a cette couleur. Ah, je sais pas. Donc nous, on découvre beaucoup de grands complexes hôteliers qui sont abandonnés parce qu'il n'y a plus de touristes, tout simplement. Tout ce qui est cure thermale vers Vichy. Et si on va vers Vichy, c'est impressionnant ce qu'on peut trouver vers Vittel. De lieux abandonnés parce que ce sont des lieux totalement délaissés de par les habitants et de par les touristes. Les hôpitaux, la clinique, les maisons de retraite, ça c'est parce que c'est des maisons qui sont plus ce sont des lieux qui sont plus aux normes. La majorité de ces lieux là c'est parce qu'il y a trop d'amiante et qui sont impossibles à réhabiliter. Donc du coup ils sont clairement abandonnés parce qu'il n'y a aucune chance qu'ils puissent être ça coûterait plus cher en fait de réhabiliter que de construire un neuf. Et donc ça, en France, des hôpitaux, des cliniques abandonnées, on en trouve plein. Et la religion, comme je vous ai montré auparavant dans la revue de presse, c'est tout ce qui est église, chapelle qui sont abandonnés par la baisse justement de pratiquants aguerris et qui abandonnent ces lieux là Voilà, donc après tout ce qui est photo et reportage, on peut le retrouver sur notre site internet urbexession.com.
Merci beaucoup, Raphaël.
Après, si vous avez des questions et des réponses, il n'y a pas de souci.
Eh bien, écoutez, s'il y a des questions.
André Brouchet, accélérateur de connexion fertile. De quoi vivez-vous ?
Alors, nous, moi, personnellement, je vends de mes ventes de photos. Enfin, je vis de mes ventes de photos. C'est-à-dire que je vends mes photos à la presse, aux magazines, aux particuliers. Et c'est une bonne base de nos revenus, en fait. On vit de ça. À travers le monde, justement, notre site est référencé en anglais, en espagnol et en français. Donc, du coup, on atteint une cible internationale. Et donc, à travers notre référencement qui est assez poussé, on arrive à atteindre une clientèle... Après, c'est des revenus qui ne sont pas fixes, hein. C'est toujours l'artistique. Donc, on peut autant faire un mois à 100 euros qu'un mois à 1500 euros. Donc, c'est toujours un peu le problème quand on s'aventure dans une démarche artistique, c'est de ne pas avoir des revenus fixes, mais ce qui fait aussi un peu l'adrénaline de la pratique. Quoi.
Il faut préciser, Raphaël, que vous êtes de Bordeaux, hein, c'est ça ?
Ah, je suis de Bordeaux, ouais.
Amélie Corsier, vous déplorez le fait que les lieux en fait, puissent être maintenant visités par des adolescents,
ouais.
Les adresses vendues sur le net, mais en même temps, déjà vous êtes dans l'illégalité,
ouais.
Premièrement.
Bah, je l'assume. Hein.
Voilà. Deuxièmement, les enfants et les jeunes, vous savez bien, dans l'illégalité, ben, c'est excitant. Donc fatalement, ils vont vous suivre sur Internet, ils vont suivre les autres personnes qui font de l'urbex. Et puis évidemment, ça va attirer d'autres gens qui vont... Enfin, voilà, des gens qui vont être un peu des entrepreneurs aussi. Donc ça me gêne un peu.
Alors, il y a le côté paradoxal, effectivement. Je peux déplorer cet effet de mode et j'y contribue totalement parce que justement, notre site Internet est le premier en France en termes de fréquentation. Donc à la fois, je peux déplorer ce genre d'accident, mais je ne peux pas m'innocenter de ce genre de fait. Mais comme je l'ai expliqué, nous, on a une politique de cacher, de divulguer, de ne pas divulguer les adresses. Donc, on ne va pas les vendre, on ne va pas exprimer clairement où c'est que les jeunes peuvent aller. Mais après, comme tout est fait de mode, effectivement, je ne peux pas... Il n'y a pas une police. Il y a une police en général, c'est-à-dire que c'est une propriété privée. Non, c'est-à-dire que on peut être pas condamné, mais enfin si même pour violation de domicile privé, ça c'est certain. Mais comme je vous l'ai montré sur certaines photos, c'est des châteaux qui ont été littéralement abandonnés par leurs propriétaires. Donc nous, avant que ça soit démoli ou vraiment vandalisé, on a quand même une démarche artistique de mémoire de vouloir immortaliser, photographier ce genre de lieux qui peuvent disparaître du jour au lendemain, qui peuvent être vandalisés. Donc nous, on est quand même dans un témoignage artistique plus qu'autre chose. Alors c'est le côté tellement paradoxal, et j'en conviens. C'est-à-dire qu'à la fois, on est dans une démarche de préservation, mais en mettant les lieux comme ça sur Internet, on ne favorise pas la préservation, d'une part. C'est-à-dire qu'on va donner envie justement à des gens d'y aller, que ce soit par notre biais ou d'autres biais. Et donc, du coup, ça va augmenter une fréquentation d'un lieu qui peut être vraiment préjudiciable, comme je vous l'ai montré, le château de Noisy en Belgique, qui a été finalement démoli parce qu'il y avait trop de monde qui allait. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu cet effet de mode. Ce lieu aurait pu être préservé depuis beaucoup plus longtemps. Et après, effectivement, on est aussi une sorte de lanceur d'alerte. C'est-à-dire que quand on met en valeur ce genre de lieu et ce patrimoine abandonné, ça a créé des initiatives comme monchâteau.com ou monchâteau.com qui arrivent à s'organiser, à contacter les anciens propriétaires pour justement faire des contributions financières de plusieurs personnes publiques pour justement sauver un lieu. Et c'est arrivé en Vienne, le château de Mortes-Chandelier.
Dans le Loudunais. Dans le Loudunais.
Ouais, voilà. Qui a été justement un lieu qui était connoté urbex. Et finalement, grâce à sa popularité, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à cet endroit-là et ont pu le sauver. Parce qu'actuellement, la cagnotte a été remplie à 100%. Et je crois que dans quelques mois, il y a des visites publiques autorisées qui vont se faire. Donc, il y a à la fois du bon et du mauvais dans notre pratique, quoi, tout simplement.
Oui, il y a Franck Michel, anthropologue. Donc non, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion, peut-être un complément. Moi, je trouve ça intéressant dans le cadre où ça ne touche pas des gens, on touche des lieux. Enfin, on touche des lieux, donc voilà. J'ai pas mal écrit sur le voyageurisme dans le voyage et tout ça, mais je veux dire, c'est vrai que par contre, on n'est pas trop dans un truc problématique, semble-t-il, parce que vous avez pas mal de garde-fous, d'après ce que j'ai pu constater. Après, c'est vrai qu'en même temps, je pense que le tourisme de proximité n'est pas trop mort quand même, c'est quand même une bonne vache à lait, le tourisme en France, le patrimoine aussi. Et donc, je pense que quelque part, il y a quand même la réhabilitation, il y a les reconversions, par exemple, le tourisme industriel. Ouais. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui se font comme ça, qui font aussi que c'est pas seulement des lanceurs d'alerte, c'est aussi à un moment donné, bah, vous donnez peut-être envie à ce qu'il y ait des locaux, des endroits qui sont réinvestis. Alors, ça peut être par de street art, ça peut être par des lofts, par plein de choses. Hein, ça peut être.
Tout à fait.
Et ça, je pense que c'est intéressant. Et l'autre exemple que je vais donner par rapport à ça, c'est les Jeux Olympiques, par exemple. Là, je me disais un clin d'œil à Jackie. C'est à Albertville, par exemple, il y a les Jeux Olympiques d'hiver. Ben, aujourd'hui, depuis déjà maintenant 15 ans, il y a une bonne réhabilitation saisonnière. C'est le Festival du Grand Bivouac qui a lieu dans tous les locaux Jeux Olympiques d'hiver, et y compris pour accueillir les gens, pour les loger d'ailleurs. Et donc, ça commence demain, et donc pendant 4 jours, et là, ça accueille quand même entre 35 000 et 40 000 personnes. Donc, c'est quand même c'est un des plus grands festivals du voyage aujourd'hui. Et ça, c'est assez intéressant de voir comment on utilise là. C'est l'exemple du coup, quand même un lieu. C'est vrai qu'il y a 15 ans, quand j'y étais tout au début, ils disaient on a enfin trouvé un truc à faire dans cet endroit, qu'on ne savait plus trop quoi en faire. Et donc, du coup, ça montre aussi. Juste dernier truc, et après, je vais devoir partir, de toute façon. C'est au niveau. Mais ça ne vous concerne pas. C'est pas critique de vous, évidemment. Mais c'est juste montrer quand là où ça dérape, pour moi, là où il y a un vrai problème, c'est quand le voyeurisme devient malsain. Par exemple, quand il y a des gens, justement. Quand il y a un problème avec de gens. Par exemple, je prends l'exemple en début 2018, donc c'est assez récent. En Autriche, vous avez eu une start-up, entre guillemets, sociale. Mais bon, les oxymores, je m'en méfie. Hein, c'est pas comme le tourisme durable. On se demande si ça fout ensemble. Enfin, bon, ça, c'est un autre sujet. Et donc, du coup, qui a essayé de faire un truc qui s'appelle le tourisme de compassion. Et en fait, c'est les Autrichiens à Vienne. Et des jeunes, là, qui ont mis ensemble un truc qu'ils sont en train de faire à l'échelle européenne. Et le but, c'était de développer des SDF, en fait, qui deviennent guides de leur propre situation et qui emmènent donc régulièrement des gens voir où ils dorment, ce qu'ils font, comment ils mangent et tout ça. Et des gens qui payent pour vous voir. Et eux, ils disent, eux, ils sont guides. Et le temps qu'ils font ça, ils sont payés comme guides. Ouais. Donc, eux, ils ont l'impression de faire du social. C'est génial. Puis voilà. Donc, ça, c'est l'exemple. Bon, je vais un peu vite. Hein, mais vous trouvez pas mal de délire dans ce genre-là. Vous avez aussi au Brésil, par exemple, depuis 2 ans, ils ont fait une plantation avec des nègres qui jouent aux esclaves et puis des riches blancs qui vont aller là-bas pour se faire servir comme autrefois. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça, mais là, ça touche des gens. Vous voyez, on est plus, c'est tout fait autre chose. Et là, évidemment, je suis beaucoup plus critique dans tout ce que je peux faire, évidemment. Mais ça montre qu'il y a quand même des dérives assez terribles dans ce domaine-là. Et je pense que tant que vous avez des garde-fous et vous savez un peu ce que vous faites, après, il faut toujours se méfier, quoi, parce que parfois, on peut être vachement pris comme ça par des choses collatérales, en fait.
Je confirme, il y a quand même quelques zones en France qui sont totalement dévastées d'un point de vue touristique. Tout à l'heure, c'était Vittel, qui était une grande ancienne cure thermale, avec beaucoup d'hôtels qui sont vraiment immenses. J'y suis allé il y a quelques mois. Toute la ville est dévastée, à part un casino et quelques petits hôtels. Les grands complexes hôteliers sont totalement dévastés. Même on pourrait dire du côté du Pays Basque et tout ce qui est vraiment situation géographique un peu éloignée, où il n'y a pas un grand parc d'attractions à côté comme ici le Futuroscope ou Albertville avec une station de ski, là où il y a peu d'intérêt touristique, forcément ça mène une désertification. Après le voyeurisme, effectivement on l'assume à 100%, c'est à dire par exemple quand on fait la maison de Marc Dutroux, c'est totalement du voyeurisme, parce que à la fois je suis intéressé par les faits divers, donc là à la fois j'ai accumulé la passion abandonnée et la passion faits divers. Quand on va voir une maison abandonnée, on va tomber sur des anciennes photos de personnes qui habitaient là avant, des anciennes factures, des anciennes lettres. Je me rappelle quand on était en Bretagne un moment, on est passé par hasard dans une maison abandonnée, on est rentré dedans et on est tombé sur un coffre où il y a plein de lettres à l'intérieur et c'était une correspondance amoureuse, on l'a lu. Il y avait vraiment des vingtaines, une trentaine de lettres. Ça reste un plaisir entre parenthèses solitaire, mais le voyeurisme il est là à 100%, il le revendiquait.
Je suis d'accord quand même avec le fait qu'il y ait plein d'endroits qui sont complètement abandonnés. Mais par exemple, je prends juste l'exemple de la laiterie, parce qu'on parlait de Strasbourg avant. La laiterie, c'est un endroit qui est maintenant très connu quand même pour ceux dans l'Est de France. Et c'était la laiterie, je me souviens, on le visitait la nuit. Enfin voilà, c'est en plein Strasbourg. Et c'était abandonné en fait à un moment donné. La ville ne savait plus quoi en faire. Il y a une municipalité un peu plus progressiste qui est venue à un moment donné en charge et qui a dit il faut quand même faire un truc avec ça. Et comme c'est un quartier un peu sensible, entre guillemets, de Strasbourg, ils ont fait un truc de rock et une scène punk et tout ça. Et donc ils ont fait, maintenant c'est une grande scène musicale et c'est la laiterie. Donc il y a encore les tuyaux, il y a encore tout le truc de la laiterie. On s'en montre aussi que.
Ouais, il y a des initiatives qui sont.
Ouais, après, c'est vrai qu'à Vittel, bon, bah, Vittel, c'est sûr que c'est paumé comme coin, donc c'est plus dur.
Bonjour, Florence Dubois. Je vous présenterai le bridge après. Moi, je voulais savoir si vous faisiez un peu de suivi, c'est-à-dire si vous retourniez régulièrement dans des lieux pour voir si ça évolue en bien ou en mal. Et là, après, ça rejoint un petit peu ce que madame disait. Est-ce que, si vraiment vous voyez des beaux endroits qui se détériorent, est-ce que vous arrivez à prendre des contacts avec des associations, des organismes pour essayer de les réhabiliter? Et à l'inverse, des lieux qui se détériorent et qui deviennent vraiment très dangereux, est-ce qu'il y a des possibilités de prévenir les autorités ou je ne sais pas, pour essayer de sécuriser?
Effectivement, les lieux qu'on peut trouver très dangereux, on peut toujours contacter la municipalité où se trouve le lieu. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, c'est quand même des propriétés privées où même la mairie n'a pas la marge de manœuvre pour pouvoir faire quelque chose, ni sécuriser. Ce qui est arrivé récemment, comme j'ai vu à Vittel, je vais encore parler de cette ville-là, mais ils ont sécurisé, je crois que c'est l'hôtel Napoléon, ils l'ont sécurisé à leurs frais en mettant la demeure en mise en péril imminent, mais après en contactant le propriétaire et des marges judiciaires pour essayer de faire payer la sécurisation du lieu. Donc c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de mairies justement qui s'emploient à ça. De mon côté, j'ai quand même cette démarche égoïste où je n'espère pas que tous les lieux soient bien cadenassés et bouchés, parce que sinon je ne pourrais plus rien faire. Donc à la fois, je suis toujours dans ce côté paradoxal en essayant de ne pas souhaiter les accidents d'autrui, mais à la fois, c'est ma passion, la passion des autres, de voir lieu de faire ce genre d'exploration-là. Donc après, quand je vois des beaux objets, la seule chose qu'on peut faire, c'est de ne pas divulguer les adresses, parce que la mairie, comme je vous ai dit, c'est des lieux privés, ils ne vont pas eux-mêmes prendre des objets. Et après, le suivi, il existe parce que l'Urbex, c'est une communauté mondiale. On a un forum et plusieurs forums qui existent où justement on peut voir des reportages qui sont publiés successivement à travers le temps. Et on voit la dégradation d'un lieu au fur et à mesure, voire même sa démolition ou sa réhabilitation. Après, comme je vous ai dit, on a une démarche vraiment de mémoire artistique. Moi, je vais citer ma ville de Bordeaux, où il y a beaucoup d'échoppes de maisons traditionnelles qui sont démolies pour y construire de grands complexes d'appartements qui sont sans âme, sans vie, sans rien, qui sont artistiquement nuls. Et le problème, c'est que d'un point de vue rentabilité, on est obligé de détruire ce patrimoine-là pour y construire des choses sans saveur et sans histoire. Et c'est pour ça que nous, vraiment, à travers les photos, on essaye quand même de cartographier à notre façon ce genre de vie, l'endroit.
Donc Amélie Corsier, archéologue. Voilà, donc on pourra parler un petit peu après si vous voulez. Par rapport, par exemple, à cette malle que vous avez retrouvée, j'ai deux questions. Par rapport à cette malle que vous avez retrouvée, ça peut faire partie, enfin, ça peut partir en archive. Parce que malgré tout, c'est des témoignages d'une. Enfin, quand vous retrouvez ce genre de choses-là, c'est quand même bien de le signaler, afin qu'il y ait quelque chose qui soit fait, plutôt que ça part. Vraiment où des gens les pillent ou que ça part en dégradation. Donc ça, c'est le côté archéologue qui parle. Ça, je suis parfois un peu choquée par, vous devez le deviner, par votre démarche. Mais bref, après, pour des territoires comme Vittel, où vous dites que vraiment, comme le Pays Basque, quelqu'un disait, monsieur là tout à l'heure, qu'ils sont abandonnés, c'est aussi... Ça, c'est un autre un cheval de bataille que j'ai. C'est aussi, quelque part, un abandon par la population de leur territoire, quelque part. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, bon, ben, les hôtels partent, OK, bon, on perd notre travail, on perd... Mais ils font rien après, je veux dire. Alors qu'il y a d'autres territoires qui, justement, mettent en valeur vraiment leur... je pense que c'est un travail de longue haleine, aussi bien auprès des enfants que des adultes, de se dire, près de chez nous... Il y a vraiment des choses intéressantes. On n'est peut-être pas obligé d'aller aux Canaries en vacances, quoi. Enfin, toute proportion gardée. Voilà. Et ben c'était ça. Je voulais faire une remarque, en fait. C'était pas vraiment
pour vous rassurer, la mallette avec les lettres, c'était vraiment des lettres, je crois, qui doivent dater des années 2000 à l'eau de rose. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une démarche vraiment historique là-dedans à conserver. Voilà. Oui, ben dans ce cas-là, non, c'était vraiment... ça ne montait pas loin, celle-ci. Mais par contre, effectivement... la plupart des châteaux que je fais, il y a beaucoup justement de vieilles brochures, de vieilles lettres, de vieilles photos vraiment type noir et blanc d'époque, abîmées par le temps. Mais comme je vous ai dit, même, alors l'aspect un peu plus scandaleux, si je vais vous joindre dans le côté scandale, c'est quand on fait par exemple un sanatorium, une clinique, un hôpital, ce qui est aussi surprenant que fou, c'est qu'on y trouve toutes les archives des patients quasiment à chaque fois. C'est-à-dire les radios, les dossiers entiers des patients avec nom, adresse et tout leur dossier. Et même, on avait été à la prison de Louz, qui se trouve à la province de Lille. Et là, on a été donc, dans cette prison désaffectée, où on a trouvé tous les dossiers des co-détenus, des détenus, tout simplement, avec leur adresse, leur fait.
Ça doit partir aux archives départementales.
C'est dans ce scandale. Il y a eu un scandale à La Roche-sur-Yon il y a 2-3 ans. C'est-à-dire qu'un explorateur comme moi, que je ne connais pas personnellement, qui a été donc dans cet hôpital qui a été démoli depuis, et il a trouvé des photos de bébés morts-nés. Et du coup, lui, il les a pris en photo pour les mettre sur son site internet, ce qui n'est pas non plus très, très intelligent. Et du coup, l'hôpital a porté plainte contre lui. Je ne sais pas réellement ce qu'il a eu comme conséquence, mais je sais que, aussi étonnant que ça puisse paraître, les mères de famille de ces bébés morts ont pris la défense de ce photographe pour dire que c'était un scandale, que c'était laissé à l'abandon. Mais ouais. Donc ça fait partie du voyeurisme qu'on peut avoir à travers ce genre de choses. Mais il n'y aurait pas autant de voyeurisme s'il n'y aurait pas autant de choses abandonnées après, entre-temps.
Bien. Merci, Monsieur Lopez. À moi qui ai d'autres questions. Non ? Bon, on en reste là. Merci en tous les cas de nous avoir présenté ce qu'était Urbex.
Merci.
Et j'ai donc demandé à Florence Dubois de venir ici, ainsi que Monsieur Jacques Bouineau, puisque notre thématique a été un peu bousculée, non pas vraiment, mais... Le créateur de jeux philosophiques qui est prof devait donner son cours, donc il a dû présenter son affaire. Et par contre, il propose à 17h d'exercer la découverte de son jeu en cafétéria ici en haut, à l'étage. Donc, Madame Dubois, tout d'abord, peut-être, qui est prof. Non, mais je vais vous laisser le soin de vous présenter. Oui, oui, allez-y tous les deux. Oui, donc je voulais préciser que le thème de cet atelier, le premier atelier c'était, que nous lançons cette année, c'était de réfléchir sur le lien entre le jeu et, je dirais, la pédagogie en quelque sorte, ou le savoir, et comment est-ce que tout ça peut fonctionner au mieux. Avec une particularité vous concernant, M. Bouineau, c'est que vous lancez une initiative qui nous intéresse beaucoup et qui, je pense, intéressera dans la salle. Mais on en parlera après. Donc, Madame Dubois, à vous.
Bonjour, donc je suis Madame Dubois, professeure de mathématiques à Niort en lycée et formatrice en bridge scolaire depuis une dizaine d'années à peu près. Donc je suis venue pour vous parler du bridge. Alors je ne sais pas, j'aimerais bien savoir déjà dans la salle s'il y a des enseignants, non ? Et ou des bridgeurs ? Non plus. Bon, ben voilà, ça va être tout nouveau pour vous. Donc le bridge, c'est un jeu de cartes qui n'a rien de très nouveau, puisque sa forme actuelle date du début du XXe siècle. Il y a eu la première Fédération mondiale de bridge qui a été créée dans les années 30, suivie de peu par la Fédération française de bridge, et un championnat du monde, je crois, en 1935. À l'époque, c'était considéré comme un jeu pour les vieux bourgeois, notamment dans les salons chics, etc. Et la Fédération française de bridge a voulu moderniser un petit peu cette idée du bridge et a développé le bridge scolaire en 1991. Alors, c'est un jeu qui, comme le jeu d'échecs, c'est un jeu de réflexion, vraiment. Sauf qu'à la différence de beaucoup de ces jeux de réflexion, ça se joue avec un partenaire. On joue à deux contre deux. D'où, alors le jeu, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, ça consiste à déclarer un contrat avec son partenaire, donc à s'engager à faire un certain nombre de plis. Je vais vous expliquer un petit peu les règles, mais rapidement. du bridge pour que vous compreniez mieux l'intérêt du jeu. Alors, pour jouer au bridge, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Il n'y a aucun, enfin, un investissement très succinct, puisqu'il suffit d'une table, un jeu de 52 cartes, tout ce qu'il y a de plus classique, et quand même le 4 joueurs, puisqu'on joue à 2 contre 2. Puisqu'il s'agit de trouver un contrat avec son partenaire, on va dire, je m'engage à jouer, à gagner 10 plis, par exemple, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il va falloir que les partenaires puissent communiquer des informations, se communiquer des informations pour essayer de trouver le meilleur contrat. D'où le côté que j'ai mis en avant sur le langage, la communication. Il y a vraiment une part importante là-dessus. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ces enchères, donc ça s'appelle des enchères, qu'on a communiqué, on va avoir une deuxième phase qui va développer plus la logique et la stratégie du jeu de la carte. Alors comment se déroule une partie ? On commence par distribuer le jeu, 52 cartes, divisé par 4, ça fait 13 cartes par personne, et chaque joueur va évaluer sa main, ce qu'on appelle sa main, donc c'est 13 cartes, de la manière suivante, l'as vaut 4 points, le roi 3, etc. Et donc, ça fait 10 points par couleur, comme il y a 4 couleurs, ça fait 40 points dans le jeu. Alors voilà un exemple de main qu'on peut avoir, et donc là, je ne sais pas si je vous laisse compter l'évaluation de cette main, mais normalement vous devez arriver, je crois, à 15, si mes souvenirs sont bons. Voilà. 13 points. 10, 13, 13 points. Donc voilà, dans cette main, il y a 13 points. Une fois qu'on a évalué sa main, on va commencer les enchères. Alors, le joueur qui a distribué, qui s'appelle le donneur, va mettre sa première enchère sur le tapis. Donc lui, il passe parce qu'il estime qu'il n'a sans doute pas un beau jeu. Le suivant, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le suivant, là-haut, donc, met l'enchère de un cœur. Donc ça, c'est le début d'un langage. Ça veut dire, il dit à son partenaire, j'ai un certain nombre de cœurs dans ma main, normalement au moins 5, et une douzaine de points, au moins. Le suivant passe, parce que sans doute il n'a pas un jeu intéressant, et donc, moi qui suis là, je dois lui répondre. Alors, avec mes 15 points, ou 13 points, je ne sais plus, 13 points, je n'ai pas beaucoup de cœurs, mais par contre, j'ai beaucoup de carreaux. Donc, je peux lui signifier ça en lui mettant l'enchère de 2 carreaux. Et ensuite, les enchères vont continuer. Alors, je vous montre le résultat final. Donc, moi, j'ai mis 2 carreaux. Lui, il a passé à nouveau. Mon partenaire, là-haut, a mis 2 cœurs. Pardon. Lui, à droite, a passé. Et moi, donc, comme le cœur ne m'intéresse pas vraiment comme atout, parce que oui, je ne vous ai pas précisé, on peut jouer soit avec un atout, soit sans atout. Donc, le cœur ne m'intéresse pas. J'ai un jeu où j'ai des forces qui s'appellent des honneurs dans toutes les autres couleurs. Donc, je vais proposer de jouer un contrat de 300 atouts. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'atout et que je m'engage à essayer de faire 9 levées. Pourquoi 9 ? Parce que la moitié de 13, c'est 6, en gros, on arrondit en dessous. Plus 3, puisque je fais un contrat de 3 sans atout. Jusque-là, bon, vous allez me dire, c'est pas passionnant. Une fois que les enchères sont terminées, on sait qu'elles sont terminées parce qu'il y a eu 3 passes successives. Celui qui est à ma gauche, donc lui, va entamer. Alors il y a aussi tout un vocabulaire à apprendre qui se fait sur le tas, si je puis dire. L'entameur, le donneur, etc. Qui est commun à pas mal de jeux de cartes d'ailleurs. Donc l'entameur va mettre une carte sur la table et c'est là, à ce moment-là, que le bridge va vraiment devenir un jeu passionnant parce que une fois qu'il aura mis sa première carte sur la table, mon partenaire en face de moi va étaler son jeu. Ce qui veut dire que moi, je connais non seulement ma main, bien sûr, mais aussi celle de mon partenaire, et que nos adversaires connaissent aussi leurs mains et les 13 cartes qu'on appelle le mort ici, puisqu'il a posé son jeu sur la table. Ce n'est plus lui qui va décider, c'est moi qui vais lui dire quelle carte il doit jouer. Du coup, connaissant exactement tout ce qui est en ma possession comme carte, je peux établir un plan de jeu et voir si j'ai mes 10 levées réalisables. 9, pardon, j'avais dit 9 levées. Par exemple, à pique, là j'ai l'as, là j'ai Dame-Valet, donc en principe, avec ces 3 cartes, enfin ces 6 cartes, je devrais pouvoir réaliser 2 plis. À cœur, j'ai as, dame et roi, donc je pourrais réaliser 3 plis. Oui, c'est ça. Et ainsi de suite. Donc, je dis au mort de mettre le 2 de pique. Mon voisin à droite met le 10, et donc je prends la dame. Et ainsi de suite. Et à la fin de la partie, chacun compte ses plis. Si j'ai fait mon contrat, je marquerai des points. Si j'ai chuté mon contrat, c'est mon adversaire qui marquera des points. Donc voilà un petit peu en quoi ça consiste. Alors, dans le schéma là d'enchères que je vous ai montré, il n'y a que Nord-Sud, ici, qui ont parlé, qui ont communiqué, mais parfois, les 4 joueurs communiquent des informations. Lui aurait très bien pu ouvrir en disant « j'ai du trèfle ». Il aurait mis un trèfle sur la table. Et donc, son partenaire, après, savait qu'il avait du trèfle. Et ces informations qu'on communique au moyen des enchères sont des informations qu'on utilise après dans un plan de jeu, enfin qui peuvent être utiles parfois pour faire un plan de jeu. Donc voilà un petit peu les grands principes du bridge. Et donc, les compétences qui sont développées par cette pratique. Alors, ben voilà, tout ça, réalisation d'objectifs, puisqu'on a un contrat à réaliser, la concentration, la mémoire, la camaraderie, puisque c'est un jeu d'équipe, vraiment, où il y a beaucoup d'échanges quand même. Après aussi, on discute des parties, ce coup-là, si tu avais joué telle carte, là, tu aurais pu gagner, ou tu aurais pu, voilà. Un esprit de logique, bien sûr, et de déduction. Et puis, il y a des... Alors, c'est un jeu où il y a des compétitions internationales, donc il y a des arbitres, et il y a vraiment une éthique de jeu à respecter. Alors ensuite, suivant l'âge, je dirais, enfin la catégorie de personnes auxquelles on s'adresse, on va développer plus ou moins telle ou telle compétence. Enfin, en tout cas, on ne va pas les développer, mais on va s'attacher à telle ou telle compétence. Le bridge scolaire, vraiment, quand on pratique ça au collège surtout, mais même ça se fait aussi en école primaire, permet de développer la concentration, les autres aussi, hein, et la discipline. Et ça, pour des élèves qui sont maintenant de plus en plus sur le zapping, etc., c'est vraiment des choses très importantes. Ensuite, pour des personnes qui seraient dans la force de l'âge, on s'attachera peut-être un peu plus à la réalisation d'objectifs et à, par exemple, la déduction, enfin en tout cas, ou l'esprit de logique. Ça, tout dépend des activités de nos adultes. Et puis, le bridge, j'ai aussi mis beaucoup en avant pour le troisième âge, parce que vraiment, ça permet de travailler beaucoup la mémoire. Parce que quand on joue une partie, il faut mémoriser quelle carte a été jouée. Est-ce que l'as de pique, il est déjà passé ou pas? Est-ce que je peux mettre mon roi? Si j'ai fait 3 tours de pique, ben ça fait 3, 4, 12 cartes, etc. Donc voilà ce qu'il en est. Ensuite, donc, la Fédération française de bridge a décidé de développer justement le bridge scolaire. Et pour cela, il y a l'Université du bridge qui a créé 2 manuels, donc pour les premières années et les deuxièmes années, qui permet vraiment de créer des clubs de bridge dans les écoles ou les collèges, avec une méthode qui est très progressive, qui ne nécessite pas... Même un professeur, d'ailleurs, qui ne connaît pas le bridge, pourrait enseigner le bridge grâce à ces manuels. Ils ont créé... Alors là, c'est ce qui concerne la région. Il y a environ 156 élèves, je crois, qui ont participé l'année dernière. Donc, ils jouent toute l'année, ils apprennent en collège. Ensuite, au mois de mai, en général, avril-mai, on les emmène à Royan faire la finale régionale. Donc voilà, vous avez une image d'une salle pleine de bridgeurs en train de jouer. Ceux qui se qualifient vont ensuite faire la finale nationale à Paris. Alors il y a aussi le côté, vous voyez, tout à l'heure dans les compétences, il y avait la camaraderie, etc. Donc ça crée vraiment des liens très forts Ils partent pour un week-end à Paris. Certains ne sont jamais allés à Paris ou n'ont jamais pris le train. Voilà. Et il y a aussi un festival où on emmène certains élèves, les cadets, c'est-à-dire ceux qui ont au moins 3 ans de bridge. On les emmène à Biarritz pour un festival international. Et il y a aussi les championnats du monde. Alors là, je ne sais pas comment je fais pour le mettre en... Non, ce n'est pas ça. C'est un film. Je ne sais pas comment je fais pour que ça démarre. Non. Excusez-moi, je ne suis pas experte en la matière. Ça, non. Zut. Bon. Excusez-moi. Je ne sais pas comment vous faites pour démarrer la vidéo. Peut-être avec la souris. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, l'année dernière, en 2017, à Lyon, ont eu lieu les championnats du monde de bridge. Alors, toutes catégories. Donc, il y avait des seniors, des adultes, et il y avait aussi des jeunes et des scolaires. Ça avance pas très vite, ça. Je ne sais pas si c'est normal. De toute la France et du monde entier. Donc, ils ont rencontré des Chinois, des Indiens, des Américains, des Allemands. Mais là, ça ne marche pas très bien, donc je vais vous épargner ça, peut-être. Je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas mieux. Il faut peut-être que ça charge, je ne sais pas. Alors, donc, le bridge, la Fédération française de bridge, qui essaye de renouveler ces joueurs, puisque la population vieillit, et de trouver des jeunes. Je l'avais mis, je sais pas si ça avançait, mais oups, en saccadé.
Non. Ah, c'est qu'il y a une vidéo. Non.
Non. Ouais, il y a une vidéo dans le. On va voir si ça marche. Enfin, c'est pas très grave, sinon je sauterai la diapo. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, la Fédération française de bridge a fait venir au mois de juin monsieur Cédric Villani, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, médaille Fields de mathématiques, à la Fédération française de bridge, donc pour assister à la finale des cadets et pour lui montrer l'intérêt du bridge. Bon, cette vidéo, je crois qu'elle passe pas. Ouais, ok, d'accord, bah c'est pas grave, on va zapper. Et il l'a mis en avant avec un inspecteur de mathématiques de Lille, je crois, qui a créé, monsieur Gouy, qui a écrit un livre de mathématiques. Alors, on retrouve toutes les compétences, bien sûr, qu'on a vues tout à l'heure, donc le calcul, le raisonnement, la stratégie, la concentration, la mémoire. Plus, éventuellement, on peut s'amuser, enfin, pour les professeurs de mathématiques, à utiliser certaines compétences, donc sur les statistiques. Et lui-même a créé un livre que j'ai là, si ça vous intéresse, de le consulter après, où il a créé des exercices. Alors, bon, la géométrie, vous allez me dire, où est la géométrie? C'est simplement quelques exercices, vous voyez, pour les petites classes, enfin, où la sixième, redessiner le cœur, le trèfle, le pic, avec tout un programme mathématique. Mais on retrouve quand même pas mal de... Oh, ça revient en arrière, décidément, j'ai pas de chance. là-dessus... Alors, est-ce que j'aurai plus de chance avec la vidéo? Je ne sais pas s'il y a du son. Non. Parce que là, donc, vous allez voir monsieur Villani à Paris. On va peut-être attendre que ça charge un petit peu. Mais je ne pensais pas que ça avait des problèmes. Alors sinon, je pense pendant que ça charge éventuellement, je peux vous reparler un petit peu de bridge. Donc c'est un jeu, je vous l'ai dit, qui existe depuis très longtemps. Actuellement, je crois qu'il y a 70 millions à peu près de joueurs dans le monde. Le premier pays au niveau du nombre de joueurs, c'est les États-Unis, suivi de la France et l'Angleterre. Mais ça se développe aussi beaucoup dans les pays de l'Est et en Chine, puisque au championnat du monde l'année dernière, il y a énormément de Chinois. Et ils l'ont institué dans certaines écoles comme une matière, enfin, ou une option à part entière. Alors, est-ce que ça va être chargé, là ? Bon. Donc là, vous voyez monsieur Gouy, l'inspecteur de mathématiques, qui... Là, nous avons celui qui gère l'université du bridge à la Fédération française. et Monsieur Villani, que vous reconnaissez grâce à son araignée. Bon, mais écoutez, c'est pas très fluide. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de vous montrer ce que Monsieur Villani disait de sa première impression, puisqu'il ne connaissait pas le jeu.
Le bridge, on peut aborder de nombreuses
questions. Bon, bah écoutez, tant pis, c'est pas grave. Oui, de ma clé, ça marchait. D'accord, ok, bah j'aurais dû vous dire, désolé.
Non, c'est pas grave.
Et alors donc, ce qui met en avant Monsieur Villani, ce qu'il a vu, c'était non seulement, pas seulement le côté mathématique du jeu, mais tout le côté discipline, rigueur, réflexion et l'intérêt, enfin vraiment que ça peut avoir de développer ce jeu dans les collèges ou les écoles. Hein, ça existe aussi en école primaire. Après, en lycée, c'est plus difficile parce qu'ils sont plus occupés, ils ont les examens très rapidement. Donc, en général, vaut mieux qu'ils commencent avant. Non, c'est pas beaucoup mieux. Non, mais c'est pas grave. Vous la verrez peut-être après sur le site, si besoin.
Si vous voulez, je pourrais mettre les liens, si vous voulez.
Ok. Et donc, il y a plein d'expériences qui ont été faites. Alors là, c'est pareil. J'avais mis un certain nombre de sites, mais vu les problèmes, on va peut-être pas trop revenir dessus. Plein d'expériences qui ont été faites, de pratiques du bridge. Alors, très souvent, le mieux, c'est qu'il y ait un club de bridge dans un établissement. Que les élèves donc y participent en tant que joueurs, et puis après certaines activités peuvent être prises pendant le cours de maths par exemple, ou éventuellement pendant le cours de dessin s'il s'agit de dessiner les. Alors vous pouvez retrouver plein d'informations. Ça, c'est le site de la Fédération française de bridge. Si vous allez dans le site de la Fédération française de bridge, mais c'était bon. Alors, il y a à la fois, justement, vous avez des liens pour voir tout ce qui s'est fait, enfin tout, non, mais une partie de ce qui s'est fait déjà en France. Vous avez des liens aussi pour faire une découverte, initiation au bridge, si ça vous intéresse. Vous avez des liens pour prendre contact, si jamais vous connaissez des gens qui veulent développer ça dans un établissement, là, dans tout sur le bridge. Donc là, vous voyez, vous pouvez soit, là, découvrir le bridge, ça va être des informations, il y a aussi un logiciel, enfin des cours presque pour apprendre les règles de base. Et puis vous avez aussi Bridge éducatif, donc là vous avez des liens sur ce qui s'est fait déjà dans plusieurs écoles ou plusieurs collèges. Et on retrouve Monsieur Villani, donc ça vous le retrouverez, voilà, en lien, parce que j'ai pas pu vous montrer là. Je suis désolée. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez plus d'informations. Je n'ai pas voulu rentrer dans le fond des règles de bridge parce que.
Alors, des questions, des remarques ? Pas pour l'instant, mais vous pourrez en avoir après avec madame en aparté, si j'ose dire. Voilà, merci en tous les cas de votre présence et merci d'avoir présenté ce jeu de bridge dans le cadre de cet atelier que nous lançons cette année. Sur cette notion d'exigence un peu de créativité. Donc, Monsieur Bouineau, à vous.
Bonjour. Écoutez, alors, je vais, moi aussi, après les maisons abandonnées et après le bridge, essayer de créer un lien, de trouver une logique avec ce que je vais vous présenter. Si on peut aller sur le site d'Antiquité à venir, ce serait parfait. On peut pas y aller ? Ah, d'accord. Alors, si on ne peut pas y aller, c'est très embêtant. Mais écoutez, je vais remplacer l'image, le son et tout. Antiquité à venir, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de pari fou. C'est une histoire qui est née totalement par hasard et qui est née à la faveur d'une rencontre il y a 3 ans. On a 2 collègues qui sont dans l'enseignement supérieur en histoire ancienne et qui ont décidé, face au contexte très mouvant dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire qui est envahi par la notion de gestion rentable et dans laquelle les humanités sont disons, laissés un petit peu de côté, ils ont décidé de faire une opération de communication et de visibilité des humanités. Et donc, ils ont décidé de faire des états généraux de l'Antiquité. C'était en 2015, c'était à la Sorbonne. Et ils ont contacté, ils ont déployé une énergie folle, ils ont contacté tout ce que le monde académique comptait de sommités au Collège de France, à l'Institut, à l'Académie française, etc., etc., qui pouvaient être susceptibles de s'intéresser à l'Antiquité. Et ils ont convoqué les médias, etc. Et puis, une fois que ça a été fait, c'était au mois de février 2015, tout le monde est reparti. Alors, moi, j'avais été approché parce que je dirige dans ma fac un centre de recherche qui est le Centre d'études internationales sur la romanité. J'ai créé une association de recherche il y a bientôt 30 ans autour du bassin méditerranéen, du rapprochement entre les deux rives sur la base de l'Antiquité, parce qu'on le sait peu en principe chez nous, mais la culture musulmane repose très largement sur la philosophie de Platon, d'Aristote et tous les anciens. Et donc, c'est à ce titre-là que j'y étais allé. Et donc, je m'étais trouvé avec des quantités de gens qui étaient majoritairement des littéraires, donc professeurs de langues anciennes, ou qui étaient des professeurs d'histoire ancienne. Moi, je suis agrégé d'histoire du droit, donc je suis juriste à la base, un petit peu loin, mais enfin tout de même, j'ai beaucoup travaillé sur les prolongements de l'Antiquité. Bref, après ces états généraux, tout s'est arrêté, et puis ils ont décidé, ses collègues, de pérenniser un petit peu cet effort. Ils se sont dit, après tout, pourquoi est-ce qu'on ne lancerait pas un grand mouvement national, international, etc. On peut toujours rêver, vous savez, les littéraires ont des idées totalement poétiques. Et ils nous ont reconvoqués au mois de juin, en Sorbonne. Et on s'est retrouvés là à une quinzaine d'associations. On était là en tant que représentants d'associations, donc majoritairement langues anciennes, histoire ancienne. Et puis, voilà, c'est parfait. Je vais pouvoir vous montrer des images. Vous savez, c'est comme Léon Zitrone, pour les plus anciens d'entre vous, qui était capable de parler pendant 3 heures du carrosse de la reine d'Angleterre qui arrivait sur les lieux du sacre. Je peux vous faire le même coup. Et donc, on s'est retrouvés au mois de juin 2015 et on a dit, on va essayer de pérenniser ça. Et donc, on a créé un réseau d'association qui s'appelle Antiquité Avenir. Et j'ai là des tracts publicitaires, parce que vous savez, je suis un représentant de commerce. Alors, je vous les donne. Voilà, si vous pouvez les diffuser, merci. Ce réseau d'associations est destiné à mettre ensemble des associations qui travaillent sur l'Antiquité et donc à créer cette espèce de grand mouvement au niveau national, si on peut, pour sensibiliser les pouvoirs publics. Alors, je vais vous passer sur l'histoire des débuts, puisque maintenant, j'ai quelque chose à vous montrer. Ce que nous voulons faire. Alors, d'abord, je vais vous montrer des images. Il suffit que je comprenne comment ça marche, parce que ce n'est pas comme le mien. Moi, avec la petite flèche, là, je fais descendre, mais là, je fais comment? Je descends par ça? Non. Si on me montre comment fonctionne l'ordinateur, je vous promets, je vous montre des choses sensationnelles. Sinon, je continue à vous faire rêver, mais sans images. Voilà. C'est avec la souris. Et alors, je fais comment? Voilà, d'accord. C'est parfait. Merci beaucoup. Oui, voilà. Donc, vous avez les logos, vous voyez, des associations. On est aujourd'hui 38. On a des associations qui ne sont pas simplement des associations qui sentent la craie et le tableau, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'enseignants, c'est sûr. Mais vous voyez, il y a Athéna, par exemple. On a aussi Thalassa. On a des associations qui viennent de l'étranger, les Amis de Carthage. C'est une association tunisienne qui est emmenée par une femme absolument extraordinaire, qui essaie de résister à la voracité des promoteurs sur le site de Carthage, ce qui est une entreprise colossale, parce que même si le site de Carthage avait été salé, maudit, etc., et s'il est aujourd'hui interdit de construction parce que c'est un site protégé, il n'en demeure pas moins que les promoteurs arrivent dans la nuit, bétonnent, pas tout bien sûr, c'est grand, ils bétonnent un petit coin, ils édifient un immeuble, et puis après, on ne peut plus rien faire parce que l'immeuble est dessus. Donc c'est leur façon de procéder, et elle a lancé cette association des Amis de Carthage, qui est quelque chose de tout à fait magnifique. Donc vous voyez, on a des choses très différentes, la Société des Agrégés, la Société des Études Latines, Sorbonne Antique, c'est une association d'étudiants, étudiant de la Sorbonne en histoire ancienne. Bref, des horizons extrêmement divers, avec pour objectif quoi ? Pour objectif de faire revivre ce qui étaient les grandes valeurs de l'Antiquité. Alors évidemment pas l'esclavage, évidemment pas le gynécée, vous vous en doutez, on n'est pas du tout dans cette mouvance-là. Les grandes valeurs de l'Antiquité, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est la grande valeur de l'Antiquité ? C'est la raison. C'est la raison, c'est l'homme maître de son destin, celui qui est capable de tout critiquer. La grande leçon de l'Antiquité, c'est le procès de Socrate, c'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'au milieu du débat, il y ait un être humain. Au milieu du débat social, il y ait un être humain. Au milieu du débat, il y ait une intelligence ouverte, généreuse, qui cherche à dialoguer avec des gens a priori improbables, comme l'islam, puisque c'est une des difficultés de dialogue de notre civilisation. Ben, nous, on dit, on va y aller. On va parler avec eux, on va parler de Platon, et parler avec des intellectuels musulmans de Platon, il n'y a rien de plus facile, et le dialogue se fait extrêmement bien. Bien évidemment, et sur le plan juridique, je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais beaucoup de dispositions, y compris de celles dont on prétend qu'elles viennent de la charia, et uniquement de la charia, non, ce n'est pas, uniquement ça. Derrière ce texte-là, vous avez le droit romain. Donc, vous avez des ponts entiers qui passent au-dessus de la Méditerranée. Vous connaissez peut-être la métaphore de Saint-Simon qui disait la Méditerranée est le lit nuptial entre l'Orient et l'Occident. La Méditerranée, c'est beaucoup plus que ça. C'est toute notre histoire, c'est toutes nos racines. Et pourquoi l'avenir ? Pourquoi Antiquité, avenir ? Parce que on est aujourd'hui, et c'est là que je vais quand même retomber sur mes pieds, vous parler de quelque chose qui, je pense, peut vous intéresser. On est à, c'est une tarte à la crème de le dire, à un tournant formidable de l'histoire, terriblement angoissant, terriblement exaltant, évidemment, en même temps. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Ce dont on est sûr, c'est que ce ne sera pas comme aujourd'hui. Et que tout est à inventer. Tout est à inventer, et notamment la notion de territoire. Notamment la notion de territoire parce que la ville qui s'étend à l'infini, c'est fini. Ça ne peut plus continuer. Ce n'est pas possible. La ville qui pollue, la ville qui consomme, je suis allé tout à l'heure en arrivant ici, c'est très trivial, pardonnez-moi, me laver les mains, le robinet envoie une quantité d'eau absolument hallucinante et ça m'a consterné. Je me suis dit, c'est invraisemblable. Pour me laver les mains, je n'ai pas besoin d'utiliser 25 litres d'eau. Il me suffit d'un tout petit filet d'eau. Donc, il va falloir repenser tout ça. Et comment va-t-on le repenser ? On va le repenser quand on sera le nez dans le mur, évidemment, on le sait très bien, malgré le rapport du GIEC, malgré la COP 21, 22, etc., et on pourra arriver à 48, on sera au même point. Personne ne prendra de décision tant que la catastrophe ne sera pas là. Heureusement, malheureusement, mais heureusement, les catastrophes se multiplient, et donc on va agir. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, le défi, et ça, c'est une rencontre que j'ai faite, et c'est à la suite de ça que, sans doute, vous m'avez contacté, c'est une rencontre que j'ai faite après les deuxièmes états généraux de l'Antiquité qui se sont tenus cette année en Sorbonne, encore une fois, les 8 et 9 juin derniers. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a écouté à France Culture. Avant les états généraux de la Sorbonne, on est passé à France Culture avec deux collègues et on m'a contacté, donc, puisque je suis président du réseau Antiquité Avenir, et on m'a dit, écoutez, voilà, moi je suis journaliste, je travaille avec un ingénieur en bâtiment et on est en train de lancer un concept sur les territoires de demain. Ces territoires de demain qui vont être développés à partir du big data, à partir de la logique numérique, à partir de la réoccupation de l'espace, de la réappropriation de l'espace en zone rurale et non plus en zone véritablement urbaine, avec des bâtiments intelligents, des bâtiments producteurs d'énergie, avec une sociabilité qui reste à créer. Est-ce que vous avez des choses à nous dire là-dessus ? Ben, je dis oui, bien sûr, oui. Bien sûr, on peut très bien imaginer de penser ce territoire du futur à partir de la logique de l'Antiquité. Vous allez me dire comment, ça n'a strictement rien à voir. Mais bien sûr que si, ça a à voir. Pour une raison simple, c'est que une société humaine, ça se définit de façon extrêmement limpide. C'est un équilibre. In medio statuirtus, c'était la phrase de favorite d'Aristote quand les latins ont traduit ce qu'il disait. Ce que détestent les anciens, ce que détestaient les grecs, c'était l'hubris. L'hubris, c'est-à-dire l'excès. Cet excès qui nous tue, qui fait que nous polluons trop. Si je transpose l'hubris à l'heure actuelle, nous polluons trop, nous dilapidons trop d'argent, nous creusons trop les écarts entre les plus riches et les plus pauvres, et nous sommes en train d'accélérer le mouvement d'une façon absolument invraisemblable. Quand Solon a entrepris la réforme du système politique grec, parce que au siècle précédent il y avait eu cette révolte dans le quartier du céramique, c'est-à-dire cette révolte qui était de nature économique, qui était de nature sociale et qui visait à déposséder l'aristocratie traditionnelle grecque de sa puissance de juger, de commander et de faire la guerre. Quand il y a eu cette révolte-là, Solon a été pas le premier grand réformateur, parce que Dracon est passé avant lui, mais Solon a été celui qui a lancé le débat en profondeur, c'est-à-dire qu'il a été le premier à dire « si nous avons des difficultés dans la société, ce n'est pas parce que Zeus nous en veut. Zeus est totalement étranger à ça. Si nous avons des difficultés dans notre société, c'est parce que nous, les hommes, nous ne savons pas gérer notre société. » Le premier enseignement du premier grand réformateur grec, c'est un enseignement qui tourne autour de la responsabilité de l'homme. Et je pense que pour construire le territoire de demain, c'est ça qu'il faut faire. D'abord, un homme responsable, qui sache d'où il vient, où il est et vers quoi il souhaiterait aller. Deuxième chose, pour arriver à prendre en main son destin, que faut-il ? Il faut créer ce que Hannah Arendt appellera plus tard cet espace qui est entre les hommes et qui fait du lien. C'était ça pour elle dans son ouvrage « Qu'est-ce que la politique ?» C'était ça la politique pour elle. Cet espace qui est entre les hommes et qui crée du lien. Et c'est celui-là qu'il faut réapprivoiser aujourd'hui. C'est celui-là qu'il faut définir, c'est celui-là qu'il faut réapprivoiser. Et on peut, avec les instruments contemporains, avec le numérique, avec le big data, avec ces bâtiments qui vont être créés, c'est-à-dire qui vont être intelligents, dans lesquels on va pouvoir habiter, on va pouvoir se réjouir, parce que la joie, le bonheur était l'élément fondamental de la cité grecque. On était en ville, on vivait en ville pour être heureux. L'homme doit trouver son bonheur. Et donc, cet espace nouveau que l'on va créer dans le futur, on peut très bien le créer sur les bases de la philosophie de Solon, les grandes bases de la philosophie de Solon, en l'adaptant à la fois au numérique et à la fois aux réalités contemporaines. Il n'est plus question chez nous d'accepter, même si la société contemporaine le fait sans le dire, il n'est plus question d'accepter l'esclavage. Nous avons aujourd'hui des esclaves qui sont tous ces pauvres bougres sans papier, qui sont exploités et surexploités, qui n'ont pas d'identité, donc personne ne sait qu'ils sont exploités. Or, ça, c'est absolument inadmissible. Et nous sommes capables, en extrapolant les réalités, les enseignements de l'Antiquité, je vous parle beaucoup de la Grèce et je vais m'arrêter parce que le plus intéressant, c'est que vous posiez des questions, bien sûr, en extrapolant cet enseignement de la Grèce, qui nous vient, et notamment l'enseignement de Solon qui a été tellement influencé par la réalité égyptienne, en extrapolant cet enseignement qui est multiséculaire de la Méditerranée, nous sommes capables, peut-être, si nous en avons la force, nous avons 38 associations, nous allons avoir, sans doute, si l'Assemblée générale du 17 novembre prochain les accepte, mais je ne vois pas pourquoi elle ne les accepterait pas, la Société française d'égyptologie, l'Institut Khéops, qui est aussi spécialisé non seulement en égyptologie, mais un petit peu aussi en cunéiforme. Et nous allons être capables de mobiliser cette puissance, parce que nous avons, parmi les gens qui ont accepté de nous rejoindre, des personnes absolument magnifiques. Nous avons, j'ai une collègue qui est une femme éblouissante, qui est d'une culture extraordinaire, d'une intelligence superbe, qui est spécialiste de cunéiforme, qui va en banlieue et qui explique aux petits beurs de banlieue comment il faut écrire la langue sémitique. Et pour la première fois, les petits beurs de banlieue non seulement se retrouvent à parité avec tous les autres qui ne connaissent pas plus le cunéiforme qu'eux, mais la langue sémite est plus proche de la langue arabe, et pour la première fois, les petits beurs de banlieue se retrouvent les premiers de cordée. Et ça, c'est absolument essentiel. Donc nous avons dans l'Antiquité, au-delà des clichés un petit peu éculés et faciles d'un système oppressif, oui, bien sûr, le système pharaonique n'avait rien de démocratique, je vous l'accorde, c'est une évidence. Mais il y a néanmoins, derrière, si on va chercher cela, si on tire tous ces fils, nous avons toutes les recettes pour bâtir un monde intelligent et durable, puisque c'est ça, la connexion de ces territoires. Et donc, cette journaliste, et je referme mes propos liminaires en revenant avec elle, cette journaliste que j'ai rencontrée, que je vais retrouver avec trois collègues, puisqu'on a mis sur pied une commission au sein d'Antiquité à venir, je vais la revoir le mois prochain, avec cette journaliste, on va essayer d'avancer sans savoir où on va, en se disant qu'il y a tout à créer et que nous allons peut-être être capables de le créer, elle et son collègue ingénieur, parce qu'ils sont en train de monter une fondation et qu'ils ont réussi à mobiliser le secteur économique sur un certain nombre de projets. Nous, parce qu'on amène, je le dis sans aucune vanité, mais on amène l'Institut, on amène le Collège de France, on amène toutes les grandes associations liées à l'Antiquité qui existent en France, et on commence à ratisser à l'étranger, donc on amène quand même beaucoup de monde. Il y a, si on ajoute tous les membres physiques de toutes ces associations, dans Antiquité à venir, il y a, je ne sais pas, j'en sais rien, mais c'est de l'ordre de 12 000 personnes. Donc il y a quand même beaucoup de monde. Et ce sont des gens qui ont une conscience politique et qui ont un vous savez, il y a beaucoup d'enseignants parmi vous, et les enseignants sont des gens qui ont une foi et qui sont prêts à se battre pour cette foi-là. Et donc, avec elle, eh bien, on va essayer de penser ce territoire du futur à l'aune de ce qu'on peut lui apporter de l'Antiquité. Et donc, eh ben, on est prêt. On est prêt à... On ne sait pas où on va. Personne ne le sait. Le futur n'est pas écrit. Le futur, c'est nous qui l'écrivons. Donc, nous, on sait ce qu'on sait. On sait ce qu'on apporte. On sait quelles sont nos forces. Et tous ceux qui nous disent, ben, on voudrait faire quelque chose, est-ce qu'on peut travailler avec vous? Si on comprend ce qu'ils nous disent, ben, on dit oui et on y va. Voilà, maintenant je suis à votre écoute, si vous souhaitez discuter.
Bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Je vais défendre un peu ma matière, mais je n'ai pas vu dans vos associations, est-ce qu'il y a des scientifiques? Parce que je vois beaucoup de littéraires.
Alors, si vous connaissez des scientifiques intéressés par l'Antiquité, nous leur ouvrons les portes à deux battants. Nous leur déployons le tapis rouge, mais c'est très difficile. Alors, on a mobilisé, effectivement, parce que... Donc, je ne vous ai pas expliqué toutes les actions que fait Antiquité à venir. Vous tapez Antiquité à venir sur le net et vous saurez tout. Vous verrez notre charte, qui est une charte humaniste. Hein, c'est l'humanisme qui est au cœur de notre projet intellectuel. Et nous participons depuis 3 ans maintenant au rendez-vous de l'histoire de Blois. J'étais la semaine dernière à Blois. Et là, l'année dernière... Moi, je n'étais pas intervenu. J'étais intervenu il y a 2 ans, mais pas l'an dernier. Je suis intervenu cette année. L'année dernière, on avait une scientifique, effectivement, qui était intervenue et qui avait parlé un petit peu de science. Et de toute façon, la rencontre de l'année dernière était autour des sciences. Et cette femme, qui est directeur de recherche au CNRS, spécialisée en cunéiforme, est de formation scientifique, même si elle est spécialisée en langue mésopotamienne. Donc, bien sûr, et c'est notre but. C'est notre but d'attirer à nous des associations. Alors, le problème, et c'est une difficulté, mais c'est aussi une garantie, c'est que les membres d'Antiquité à venir, c'est pour ça que nous ne sommes que 38, ce sont des associations, pas des personnes physiques. Les associations mandatent des personnes physiques, mais j'ai fait pendant une semaine au mois de septembre, là, cette année, des rencontres avec tous les présidents des associations qui sont dans le directoire, parce qu'on a un bureau, un directoire et une assemblée générale, enfin comme dans toute association, hein, et j'ai rencontré toutes les associations du directoire. Et ensuite, j'ai fait un point que j'ai envoyé à tout le réseau, et en demandant aux présidents de toutes les associations de le diffuser. Donc s'ils ont bien fait leur boulot, après je ne sais pas, s'ils l'ont bien fait, normalement il y a des milliers de gens qui ont été touchés, et nous sommes bien sûr à la recherche d'associations, de scientifiques qui pourraient être intéressés par ça. Oui.
Bonjour. Alors, bon, je suis archéologue, mais en auto-entreprise. Alors, du coup, je ne pourrais pas rejoindre votre réseau, à moins de créer une association ou d'être adoptée dans une association, peut-être.
Oui.
C'est possible. Je voulais que vous précisiez votre pensée sur les maisons, enfin, le numérique et les maisons intelligentes, connectées.
Intelligentes, voilà. Et durables, oui.
Parce que moi, je ne suis pas, en tout cas, une pro tout numérique, et je ne suis pas persuadée vraiment que... même si c'est inéluctable, hein, mais qu'en tout cas, dans la transmission des savoirs, que ce soit vraiment quelque chose qui ait de l'avenir. Enfin, en tout cas, au vu de, des rapports vraiment des neuropsychologues, etc. Enfin, je ne sais pas, par rapport aux enfants. Et la maison connectée, ça, c'est autre chose. J'aime, ça me gêne d'être connectée de partout. Voilà. Donc, si vous pouviez vraiment parler de ça plus précisément.
Alors, oui, je veux bien en parler, mais du haut de mon ignorance. Vous savez, moi, je suis un disciple de Socrate. Hein, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Je pense que cette ultra-connexion dans laquelle on est entré est inévitable à l'heure actuelle. Est-ce que demain, ça le sera toujours ? Je ne sais pas, parce que ça repose tout de même sur un certain nombre de maîtrises énergétiques, ça repose sur un certain nombre de processus, et si on ne trouve pas les énergies de substitution auxquelles nous rêvons tous, qu'est-ce qui se passera ? Parce que, bon, bah, pour l'instant, ça fonctionne parce qu'on a encore des réserves, mais quand on n'en aura plus, bon, on ne sait pas. Donc, il y a une hypothèque, effectivement, autour de ça. Alors, ce qui me semble intéressant dans le concept, c'est que c'est la notion d'occupation du territoire, si vous voulez. Il y a une vingtaine d'années, j'habitais Paris encore, je crois, à ce moment-là, il y avait une série de photos qui étaient régulièrement bombardées dans le métro. C'était la ville jusqu'où ? La pollution jusqu'où ? Etc., etc. À chaque fois, c'était jusqu'où. Et on voyait effectivement ces villes qui, comme on dit chez nous, moi je suis de Saintes, hein, donc je suis patoisant d'ici, qui galent, ces villes qui galent. Galer, c'est les fraises qui galent, c'est-à-dire qui se répandent comme ça, qui s'étendent partout, c'est le pourpier aussi. La ville aujourd'hui, c'est ça, c'est un gigantesque pourpier qui s'étend partout et nul ne sait comment l'endiguer. Donc je crois qu'il est urgent de proposer quelque chose. Je ne dis pas que c'est la panacée, je dis que ça a au moins le mérite d'exister, parce qu'on a des devanciers par rapport à nous qui sont dans un état absolument horrible. J'ai vécu en Égypte pendant un temps, et j'ai vu ce formidable accroissement de la population égyptienne, les efforts désespérés qu'ils font pour éviter de construire dans le delta ou dans la vallée du Nil. Ce qui est évidemment le plus agréable. Alors, ils font des villes horribles dans le désert, au beau milieu de nulle part, en oubliant de créer les infrastructures avant. Donc, tout repose sur la voiture. Enfin, bref, c'est une catastrophe. Et ils continuent donc à construire dans le delta. Oui, mais à chaque fois que vous faites une maison dans le delta, c'est autant de culture que vous n'avez pas, sachant qu'il n'y a pas une surface énorme de culture, premièrement. Sachant, deuxièmement, qu'il y a un problème d'eau qui est en train de nous arriver. Absolument. Et ce qui est en train de se passer avec le Soudan, c'est que le Soudan veut construire son lac, il veut récupérer une partie de l'eau. Et je vais en Égypte depuis plus de 20 ans, et je peux vous dire que le niveau du Nil au Caire a sacrément baissé. Mais c'est palpable, c'est visible. Bon, donc on a cet exemple, qui n'est qu'un exemple, bien sûr, où vous avez une ville folle, le Caire est une ville folle dont on ne sort pas. Vous avez ce problème de manque d'eau, donc, et vous avez une surpopulation. On ne sait pas combien ils sont, tous les chiffres sont faux en Égypte, mais ils sont beaucoup. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils sont à saturation. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Il faut qu'ils agissent. Nous, on est, Dieu merci, un peu préservés de cela, mais il faut qu'on essaie d'anticiper. Donc, c'est pas la ville connectée, c'est le territoire connecté. Le territoire connecté, ça a l'avantage, du moins, c'est ce que j'ai écouté avec grand plaisir chez Sylvie Ramire, hein, cette journaliste, c'est que sa volonté, c'est de réinvestir les campagnes. Non pas pour les rurbaniser, comme disent les géographes, comme on disait dans les années 60, hein, la rurbanisation, c'était le grand concept. C'est pas ça qu'il s'agit de faire. Il s'agit de repenser le monde au fond, et donc de recréer des lieux de peuplement, de sociabilité, mais aussi des lieux économiques, parce qu'il faut que les gens vivent. Quand on ne pourra plus se déplacer en voiture. Moi, j'habite un village à côté de Saintes. Bon, pour aller travailler, qu'est-ce que je fais ? Je prends ma voiture. Qu'est-ce que je fais autrement ? Il n'y a pas de transport. Il n'y en a pas. Quand j'étais petit, il y avait un bus qui passait le matin et un autre qui revenait le soir. Bon, c'était déjà ça. Mais aujourd'hui, on a même plus ça. On n'a que les bus scolaires. Donc, il n'y a plus tout ça. Donc, il faut nécessairement prévoir des territoires enclavés dans la France périphérique. Il faut que sortir de la France périphérique. Mais il faut sortir de la France périphérique de l'intérieur et par l'innovation et par l'intelligence.
qu'est-ce qui peut aujourd'hui permettre de sortir cette France périphérique de l'enclavement, si ce n'est le numérique ? C'est-à-dire que vous allez travailler chez vous avec votre ordinateur. Vous allez, si vous êtes professeur, vous allez faire vos cours avec votre ordinateur et les bombarder dans une classe. Et si vous êtes, je ne sais pas, moi je ne connais pas les autres métiers, moi je suis dans l'enseignement, donc j'en sais rien, mais dans presque tous les métiers, on travaille à l'ordinateur. Donc vous pouvez exporter ça. Et puis à l'intérieur de ces complexes-là, qui sont sans doute des sortes de stations spatiales, hein, c'est un peu ça, je crois, la maison du futur. Moi, j'habite une maison dont le plus ancien mur est du 16e, ça ne m'amuse pas du tout, hein, d'imaginer la maison connectée, pauvre en énergie, bien sûr, mais il faut arriver à ça. Alors après, est-ce qu'il y a d'autres solutions possibles ? J'en sais rien. Mais en tout cas, dans cet espace nouveau, avec les technologies nouvelles, une philosophie intelligente basée sur l'homme, et sur l'attention portée à autrui, je pense qu'on a peut-être un moyen d'éviter le pire. Je ne vous dis pas que c'est le meilleur, mais c'est comme Churchill le disait pour la démocratie, c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres.
Les maisons passives, vous savez, sans être connectées, ça existe déjà. Hein.
Oui, je sais, bien sûr. Oui, mon fils vient d'acheter ça. Oui, je sais. Oui.
Comme on a des représentants de territoire, je ne sais pas s'ils veulent intervenir sur cette question. Vous voulez pas, non ? Étonnant. Vous voulez intervenir
encore ? Non, je suis contente d'apprécier votre démarche en tant que collègue, donc c'est très intéressant.
Merci.
Mais Madame Michel, c'était de elle dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, Cécile Michel.
Oui, je l'ai rencontrée en décembre l'année dernière, elle est formidable.
Ah, extraordinaire.
Voilà, et pendant un an, j'ai été contractuelle en histoire géo pendant une année de trou. Et j'avais utilisé son travail et ses vidéos avec justement mes élèves de 6e, puisque c'est le programme de 6e. Et non, vraiment, c'est une femme adorable et qui n'a pas la prétention qu'elle pourrait avoir dans son attitude par rapport à sa position sociale dans la recherche, on va dire.
Tout à fait, mais ouais. Il y a, et pas du tout pour minimiser ce que fait Cécile, parce que ça ouais. Fait plus... quasiment 30 ans qu'on se connaît et je l'apprécie énormément, mais vous avez venant du Collège de France des initiatives comparables. La chaire d'égyptologie du Collège de France par exemple fait des interventions régulièrement dans le 9-3 pour tenir un autre discours et apporter justement l'égyptologie et ces gens qui sont le sommet de la science. Qui n'hésite pas à aller là. Oui, et puis oui. Vous avez des petites associations moins connues comme Bonne Pioche qui est intervenue, enfin on a projeté un extrait de leur film pour les états généraux de l'Antiquité. Oui. Bonne Pioche fait ce genre de choses aussi. Oui. C'est dans votre domaine, c'est dans le domaine de l'archéologie.
Mais je ne sais pas si vous serez là demain matin, mais en fait...
Non, je repars tout de suite. Non. Je ne fais que passer.
Alors on fait des ateliers justement avec les enfants parce que moi ma conviction forte c'est qu'il faut vraiment les replacer dans le patrimoine concrètement qu'ils voient tous les jours. Parce que après, effectivement, pour rebondir sur ce qu'on a vu tout à l'heure, on débouche sur finalement des gens qui vivent à côté de monuments divers et variés et puis qui savent plus vraiment que ça fait plus sens pour eux. Donc, voilà.
On ne peut faire société que si on a des racines et si on regarde ensemble dans la même direction.
C'est
tout. On n'en sortira pas.
C'est ça.
Or, on est aujourd'hui dans une société agonistique permanente. Tout le monde déteste tout le monde, tout le monde stigmatise tout le monde. On va dans le mur et à l'explosion.
Ça, c'est vrai.
Voilà.
Et sinon, pour vous parler du 9-3, mais à Saint-Denis, il y a justement un service archéologique qui ont un gros service de médiation. Et il y a, je ne sais pas si vous connaissez, il y a aussi ce qu'ils appellent la fabrique de la ville. Et en fait, ils font vraiment, c'est un programme super, super... vis-à-vis des enfants du 9-3, justement. Et donc, il y a une réappropriation vraiment importante de la ville de Saint-Denis, où on invite les classes à aller avec le plan ancien, le plus ancien plan qu'ils ont de Saint-Denis. Et donc, ils ont la chance d'avoir un centre-ville qui est tout à fait préservé en termes de plan. Et donc, ils peuvent vraiment visiter comme avant... et comprendre ce que ça veut dire la rue de la boucherie, la rue, ce genre de choses, quoi. Donc ça, c'est, il y a quand même des initiatives, voilà, intéressantes.
Et oui, et si vous prenez l'exemple de l'urbanisme, le plan de la ville méditerranéenne, c'est celui d'Hippodamos de Milet, mais en fait, Hippodamos de Milet l'a piqué en Mésopotamie, et c'est ce qui est passé à Rome, et c'est ce qui a permis de construire les villes au nord de la Méditerranée, et au sud, le plan de la ville arabe, c'est le plan de la ville romaine.
Voilà. Oui, moi, ce qui me frappe, André Brouchet, donc accélérateur de connexion fertile, évidemment, vous êtes une connexion fertile, ce que vous voulez faire, et ce que je remarque chez les orateurs, la plupart du temps, qui passent, comme on dit, c'est que vous êtes enthousiaste. Enthousiaste, c'est-à-dire que vous faites passer au-delà des mots, au-delà même de vos croyances, vous laissez passer la vie. Et actuellement, est-ce que le numérique est la vie ? Pas si sûr. Je ne suis pas contre le numérique, bien entendu, mais il n'empêche que c'est cet enthousiasme que les enfants perçoivent très bien. Et quand on parle d'un professeur par rapport à un autre, eh bien, c'est le professeur enthousiaste qui fera aimer la discipline dans laquelle il exerce. Et tous les jours, quand vous discutez avec les gens, vous dites « De quoi te souviens-tu de ton école ?»« Ah, ben, je me souviens de tel prof d'anglais ou de tel... » pas forcément prof de philosophie ou mathématiques, mais même un prof d'histoire géo qui vraiment était passionnant. Faire passer la passion, je pense que c'est le fondement. Et donc, je vous remercie personnellement. Moi, ça fait sept ans que tu fais ça. C'est la septième ici. Je suis venu quasiment tout le temps, pas toujours, et à chaque fois... Je remarque deux choses un peu contradictoires. Il y a peu de monde. On peut s'en affliger. On peut se dire, ben, il y a des solutions. C'est une question de communication. Parce que le contenu est toujours à la fois surprenant, intéressant, disruptif même, à certains moments. Parler du bridge, je rappelle que bridge en anglais veut dire le pont. Bref, moi, chaque fois, je ramène, d'une part, un peu plus de connaissances au sens le plus large du terme. Et comme je le disais à midi à Didier Moreau, l'an dernier, je donne cette anecdote qui n'a pas à voir avec l'Antiquité spécialement, mais qui a à voir avec la manière dont la vie se joue de nous. L'an dernier, il y a une jeune femme qui était de Poitiers, qui est venue me voir et qui... puisque mon métier à moi, c'est d'accompagner les start-up dans leur développement, me demander des conseils sur la start-up qu'elle allait créer. Bon, je lui en ai donné, elle m'a remercié, et je l'ai oublié. Et des mois après, il y a quasiment un an maintenant, elle me rappelle en me disant, écoutez, j'ai bien écouté ce que vous me disiez, c'était très intéressant, et j'ai créé ma start-up, mais pas du tout celle que je vous ai dite. Ah bon ? Non, je voulais faire de l'import-export et maintenant, en fait, je me lance dans le digital, etc., etc. Et cette dame me dit, je lui dis, alors qu'est-ce que vous faites ? Ben, je veux aider les femmes africaines entrepreneuses. Je me dis, oh là là, par-devers moi, je me dis, allez, encore une qui idéaliste, qui croit qu'elle va sauver le monde, etc. Et puis en fait, on s'est rencontrés et j'ai vu devant moi une jeune femme, je lui aurais donné 13-14 ans, mais enfin, en fait, elle avait 26 ans, et c'est une malgache bretonne. Je veux dire par là qu'elle était malgache de naissance, mais élevée par des parents bretons, était adoptée. Et au bout d'une demi-heure, j'ai compris que j'avais en face de moi quelqu'un de très intéressant, donc découvert à Poitiers à l'occasion de Créativité et Territoire. Une demi-heure après, elle est devenue ma cliente, parce que ma particularité à moi, c'est qu'elle me fait payer avant de travailler pour une personne. J'ai eu trop de déboires en faisant le contraire. Bref, une demi-heure après, je lui dis quelle est la prochaine étape. Elle me dit je vous fais un virement. J'aime bien ce genre de phrase. Mais comme je ne suis pas très attaché à l'argent, on a continué à discuter. Une demi-heure encore après, elle devenait ma partenaire. Et une heure après, elle devenait mon bras droit. Elle devrait être ici, mais comme elle est en train de préparer un colloque sur les femmes africaines entrepreneuses à Bobo-Dioulasso fin novembre, au Burkina Faso, elle n'a pas pu venir. Mais elle est venue depuis à quasiment tous les événements où j'étais, dont j'en ai parlé ce matin, avec Michel Hervé, de Groupe Hervé, l'économie concertative, et concertative, il y a concert dedans, hein, agir de concert ou de conserve d'ailleurs, hein, les deux acceptions sont possibles, c'est justement retrouver la façon de travailler ensemble, mais pas d'une manière forcément hiérarchique. Et ça, depuis 45 ans, Michel Hervé, qui a été maire de Parthenay, comme vous le savez peut-être, 23 ans, et patron de Hervé Thermique. Hervé Thermique est devenu le groupe Hervé, 20 sociétés, 472 millions de chiffre d'affaires, etc. Et grâce à l'économie, au management concertatif. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec l'Antiquité et avec toutes ces associations où il y a, comme on dirait d'une manière un peu méprisante, ce qui n'est, je ne partage pas ça, mais les grosses têtes, n'est-ce pas, hein, Collège de France, etc. Eh bien, c'est que quand même, il y a une fédération, il y a une prise de conscience de toutes ces grosses têtes, comme on dit, que le monde, d'une part, est encore plus vaste qu'il le pensait, qu'il est en danger maintenant, pas la Terre spécialement, mais le monde des humains, hein, notre espèce, justement, et qu'il faut faire des choses, on ne sait pas trop quoi, d'ailleurs. Or, tout à l'heure, quelqu'un a parlé des intelligences, de mettre en fédération, en interaction, les diverses intelligences. Et ça, c'est une chose que, personnellement, je trouve très intéressant, mettre enfin l'intelligence manuelle au même niveau, si tant est qu'on parle de niveau, avec l'intelligence universitaire ou intellectuelle, l'intelligence musicale, on en a parlé aussi, c'est amusant, j'en ai parlé ce matin, à midi, avec Didier Bourreau, et il m'a présenté son voisin de table s'appelle. Michel François, mais sa boîte s'appelle comment ? Vibrato. Il a une boîte qui s'appelle Vibrato. Je ne le savais pas, mais moi je lui parle d'intelligence musicale, etc. Alors, encore une fois, qu'est-ce que ça a à voir ? Eh bien, c'est des harmoniques. Trouver les harmoniques entre l'Antiquité, entre l'archéologie, entre toutes ces disciplines où vraiment il y a des gens de bonne volonté qui cherchent à comprendre toujours plus, toujours plus, toujours plus, et non pas à posséder toujours plus. Je pense que c'est essentiel, et c'est en cela que créativité et territoire, on est 12 ou 13 actuellement, c'est le bon chiffre pour faire des choses, n'est-ce pas ? Voilà.
Juste un mot pour vous remercier. C'est un des plus beaux compliments que je puisse entendre, et il me touche beaucoup quand on me dit que j'apporte la vie. Ça me plaît infiniment. Et vous apportez l'harmonie et l'intelligence. Et vous savez, il n'y a pas de vie sans harmonie et sans intelligence. C'est une évidence. Voilà.
Merci bien. S'il n'y a pas d'autres questions, donc pour ceux qui veulent découvrir le jeu de cartes philosophiques, c'est à 17h. Sinon, demain, 9h. Voilà. Merci en tous les cas.